Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Quand on voit par exemple que la norme pour une femme qui travaille par exemple dans un bureau en France, on va dire, c'est d'avoir une jupe et des talons, tu vois. Bah ça c'est une tenue qui est créée pour rendre une femme vulnérable. Parce qu'avec une jupe et avec des talons, on est vulnérable, on peut pas courir, on peut pas bouger comme on voudrait bouger, tu vois. On est obligé d'avoir une certaine démarche, d'avoir une certaine, tu vois. Et en fait, il faut penser ça de façon politique. Il faut penser en quoi nos vêtements, c'est pas du tout quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui est lié à nos goûts personnels, c'est quelque chose qui est lié à une norme sociale. Et cette norme sociale, elle est fondée sur des critères qui sont des critères de domination, de sexe, de classe et de race. Voilà, toujours, toujours, il faut penser ça, en fait, pour tout dans notre vie. Et se demander pourquoi. Voilà.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Morjan.
Alaikum salam.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien, il fait super beau aujourd'hui. Je suis en région parisienne, c'est mes beaux-parents. Alhamdoulilah, on profite du beau temps.
Ah bah ouais, moi aussi je suis en région parisienne, ouais.
Morjan, Morgan, je sais, à chaque fois, je sais jamais comment prononcer ton prénom. Comment tu préfères que je t'appelle?
Comme tu veux, je peux le prononcer à la française comme on parle français, mais si tu le prononces en arabe, ça me va
Ok,
aussi.
bon, je risque de changer au cours d'interview.
Aucun problème.
Bah écoute, Morgane, pour commencer, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es, ce que tu fais, d'où tu
Oui.
viens, rapidement. Ouais.
Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, moi, je viens du 91, donc au sud de Paris. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne, disons. Bon, je suis sociologue, hein, donc des repères sociologiques. À l'école, j'avais des assez bonnes notes. Au collège, pas trop, mais au lycée, j'ai commencé à avoir de très bonnes notes. Je voulais être journaliste. Et en fait, j'ai intégré Sciences Po via un programme qui s'appelle CEP, donc c'est Convention Éducation Prioritaire. Donc c'est pour permettre à des jeunes qui ont des bonnes notes, mais qui viennent pas des grands lycées parisiens notamment, de pouvoir intégrer Sciences Po. Donc niveau études, j'ai fait une double licence Sciences Po et philosophie à la Sorbonne. Donc philosophie à la Sorbonne et puis Sciences Po, enfin sciences humaines et sociales, on va dire, à Sciences Po Paris. Puis je suis partie un an en Jordanie pour apprendre l'arabe. Et ensuite, j'ai fait un double master, donc toujours à Sciences Po et à l'INALCO, donc en recherche en sciences politiques comparées à Sciences Po et à l'INALCO, j'ai fait un master en langue et civilisation arabe. Et entre-temps, je suis partie aussi en Égypte à l'université d'Alexandrie pour améliorer aussi mon arabe.
Donc, tu parles couramment.
Alhamdoulilah, ça va, je me débrouille bien, en particulier en dialecte yéménite, mais bon, ça je vais expliquer pourquoi après. Mais oui, bon, je lis, j'écris, niveau lecture et écriture, voilà, je suis pas bilingue, mais en dialecte, je parle couramment. Et l'arabe, ça se travaille, hein. Et ensuite, j'ai fait une thèse. Donc là, je suis en train de finir ma thèse, une thèse en sociologie à l'EHESS. Et puis je pense qu'on va en reparler ensuite, mais voilà, ça c'est mon parcours un peu sur le plan scolaire et académique. Et puis à côté de ça, j'ai fait une carrière militante parce que je me suis mobilisée assez jeune, en fait. Je suis entrée assez jeune dans les milieux militants. J'ai commencé en tant qu'étudiante au Génépi, donc qui est une association d'étudiants qui entrent en prison, en fait. Notamment donner des cours à des personnes détenues. Donc j'ai fait différentes prisons, des prisons pour femmes, des prisons pour hommes, des centres de détention aussi pour mineurs. Et puis voilà, ça c'est quelque chose déjà qui m'a... La prison, c'est tout un monde. On entre dans un autre univers, on se rend compte de, voilà, tout l'envers du décor, de tout ce qui... Dans tout ce... tout ce qu'on nous a raconté en fait sur la société et puis tout ce qui est pas vrai en fait, il n'y a pas les gentils et les méchants, enfin tu vois, ça nous force aussi à voir les choses de manière un peu moins binaire et puis d'avoir un regard critique en fait sur le pouvoir étatique sur la police, enfin tu vois tout ce qui concerne les violences policières, etc. C'est lié et puis par la suite en fait, à partir de 2015, ouais, à peu près même période, Moi, j'habitais à Saint-Denis, puis j'habitais dans le nord de Paris par la suite. Et en fait, il y a eu ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, alors ce qu'il faudrait plutôt appeler en fait la crise de l'accueil. Donc c'était plein de gens qui sont arrivés assez rapidement en fait de Syrie, mais surtout à Paris, du Soudan et d'Afghanistan. Donc dans un contexte où il y avait plein de différents conflits. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est pas tant le fait qu'il y ait des gens qui arrivent, mais surtout qu'on refuse de les accueillir en fait. Et ces personnes donc dormaient dehors ou dans des squats. Et moi en fait j'habitais à côté. Et évidemment bon, d'un point de vue en fait moral et éthique, il me paraissait évident d'aller aussi donner un coup de main. Donc ça a commencé par des choses assez basiques. On avait fait une collecte à l'échelle de Sciences Po. Enfin, tu vois, des choses pas très politisées, tu vois, des choses assez basiques, mais voilà, une espèce d'aide matérielle. Et puis en fait, rapidement, voilà, j'ai commencé à revenir sur les campements, à militer en fait avec des collectifs. J'ai rencontré beaucoup de monde. La carrière militante, c'est quelque chose d'extrêmement formateur. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai commencé à écrire des articles sur des blogs militants. J'ai commencé à participer à des conférences. J'ai commencé à participer à plein d'événements, donc à des manifestations, d'ouverture de squats, etc. Et en fait, j'ai appris plein de choses sur plein de volets différents, moi qui étais très jeune, de rencontrer des gens qui avaient une carrière militante derrière eux, qui avaient énormément d'expérience. Puis on rencontre des gens bienveillants et intéressants, et des gens pas bienveillants et pas intéressants, parce que dans les milieux militants, il y a aussi des gens qui surinvestissent le militantisme aussi parce qu'ils vont pas bien, parce que bon. Donc on rencontre des choses plus ou moins difficiles, et puis avec les personnes donc migrantes qu'on rencontre, bah évidemment c'est des parcours très très compliqués. Donc malheureusement, un certain nombre des personnes que j'ai rencontrées sont depuis décédées, certains se sont suicidés, d'autres ont été malades, enfin c'est assez compliqué, mais en même temps, bah ça donne un autre regard en fait sur la société, sur ce qui se passe au-delà des frontières française, tu vois. Et je pense que tout ça m'a amené de façon, je veux pas dire naturelle, mais de façon un peu évidente, à m'intéresser de plus en plus à la société, à la sociologie, à tous les enjeux politiques, et pas politiques dans le sens partisan, tu vois, mais à tous les enjeux politiques, donc les enjeux de pouvoir sous-jacents à tout, voilà, toutes ces problématiques sociétales, comme la prison, comme l'émigration. Puis après, je me suis intéressée aussi au genre. Voilà, de plus en plus de questions, tu vois, mais toujours en essayant d'avoir un regard critique grâce à ce parcours militant un peu sur le terrain que j'ai, chose que je fais un peu moins maintenant parce que j'ai deux enfants en bas âge, mais j'aspire à pouvoir militer encore sur le terrain, parce que je pense que c'est très très important, et c'est la seule manière finalement de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe réellement autour de nous, quoi, dans notre société.
Oui. Donc rapidement, on va revenir dessus, mais le sujet de ta thèse, est-ce que tu peux nous le définir rapidement?
Oui. Alors, j'ai l'impression qu'on fait une thèse, plus on avance, moins on sait ce sur quoi on travaille. Donc là, je suis en train de rédiger ma thèse, mais alors, dans les grandes lignes, ça traite de tous les enjeux politiques, tous les enjeux de pouvoir qui sont sous-jacents à la maternité des femmes yéménites à Djibouti, donc ce que j'appelle le travail maternel, pardon. Donc c'est tout le travail domestique. Donc, travail au sein de la maison, ça peut être le ménage, mais c'est aussi l'éduquer, donc donner naissance, porter, donner naissance à des enfants, puis les élever. Tout ce travail qu'on appelle en sociologie un travail de reproduction sociale, et qui incombe particulièrement aux femmes, en particulier dans un moment qui est très important pour le Yémen. C'est un moment de guerre, mais aussi un moment où il y a toute une reconstruction du mythe national, des appartenances, et puis dans un moment de migration. Comme moi, je travaille plus spécifiquement sur les femmes yéménites à Djibouti.
Très bien. Tu nous as un peu évoqué ton parcours très rapidement, mais j'aimerais bien comprendre un peu ton parcours un peu plus tôt aussi. Donc, ce qui t'a amené à faire ces études-là. Tu as toujours une passion dans le domaine de la sociologie, ces thématiques-là. Comment t'en es arrivé à faire ces études en langue arabe aussi, en sociologie?
Bah écoute, c'est toujours difficile en fait a posteriori de reconstruire une cohérence dans nos parcours. Bourdieu appelle ça l'illusion biographique, enfin, comme si c'était cohérent, mais si je vais quand même essayer de trouver un petit peu des déclencheurs. Alors Moi, j'étais très mauvaise, très très mauvaise en maths à l'école. J'avais un gros blocage. Donc, toutes les matières scientifiques, c'était très compliqué pour moi. Et en fait, à l'école, grosso modo, au collège, j'étais bonne que en dessin et en français. Donc, bon, déjà, ça m'a un peu, voilà, contrainte à choisir. Enfin, ça va un peu ensemble, en fait. Quand on aime quelque chose, on est bon. Et puis, quand on est bon, on aime, tu vois. Donc, rapidement, on m'a dit que j'avais une belle plume, que j'écrivais bien. Donc, j'ai pris goût aussi à ça. Et voilà, c'est pour ça que je te disais que j'avais envie d'être journaliste, parce que je connaissais pas le métier de sociologue. Et puis la sociologie, en fait, c'est venu bah, quand j'ai fait mes études à Sciences Po. Au début, c'était dans l'idée de vraiment devenir journaliste. Et j'avais envie d'être journaliste et de partir sur le terrain déjà. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé. Je venais pas d'un milieu, voilà, comme je t'ai dit, un milieu classe moyenne. Mais bon, j'ai pas beaucoup voyagé avec mes parents, un petit peu en Europe. Mais voilà. Mais j'avais très envie, moi, d'aller voir ce qui se passait, de comprendre. Enfin, voilà, j'étais assez curieuse. Et je pense que bah, c'est venu de là. Et puis, quand j'ai découvert la sociologie, je me suis rendu compte que c'était un peu comme le journaliste, sauf qu'on restait plus longtemps sur le terrain, tu vois. Je ne vais pas du tout cracher sur le journalisme, parce qu'il y a plein de genres de journalisme différents. Le journalisme, évidemment, ce n'est pas que BFM TV, tu vois.
Oui.
Et voilà, il y a des gens qui font des trucs formidables. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le côté ethnographie, en fait, de la sociologie qualitative. Évidemment, moi, je fais de la sociologie qualitative, comme je viens d'expliquer que je n'étais pas du tout bonne en mathématiques, je ne fais pas du tout de statistiques ou quoi. Moi, j'aime bien le
Tu poses des
contact avec.
questions qualitatives,
Voilà, en
donc
fait,
tu vois.
je fais de l'ethnographie, c'est-à-dire que je vais quelque part, je reste, je vis avec les gens. Donc, je fais ce qu'on appelle de l'observation participante, c'est-à-dire que bah, je suis là, je vis avec les gens, mais en même temps, je suis dans une démarche d'être attentive en fait à ce qui se passe autour de moi. Puis je fais des entretiens aussi, et ça, bah, c'est un peu ce que font les journalistes, grosso modo, sauf que en sociologie, on est plus dans le temps long, on a plus le temps de pouvoir après bah, faire des recherches à côté, de pouvoir écrire davantage. Tu vois, c'est plus aussi une différence de format, et puis peut-être des interrogations un peu plus peut-être un peu plus profonde et un peu moins dans l'immédiat, tu vois. Mais pour moi, il y a quand même un lien fort entre les deux démarches. Tu vois, pour moi, un bon journaliste, c'est presque un sociologue. Et du coup, bah, en fait, au vu des thématiques auxquelles je m'intéressais, puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose, voilà, de rester dans une forme de politisation. La sociologie, c'est quand même une discipline qui est très politisée. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, alors, le monde arabe. Je ne sais pas, quand j'étais jeune, moi je viens d'une famille française, tu vois, donc quand j'étais jeune, j'avais pas mal d'amis qui venaient, notamment pas mal d'amis algériens. Donc bon, bah, voilà, déjà c'était quelque chose qui m'était un petit peu familier, tu vois, je savais ce qu'était l'islam déjà relativement jeune, bon. Donc c'est pas quelque chose qui m'était étranger. Et puis en fait. En fait, je sais pas trop, tu vois, c'est drôle, mais je sais pas te dire exactement. Évidemment, bah, quand j'ai commencé à militer avec des réfugiés, bah, je travaillais avec des gens qui parlaient arabe, tu vois, qui faisaient des traductions et tout. Peut-être que ça m'a donné aussi envie d'apprendre l'arabe, tu vois, mais j'étais attirée, en fait. Et comment, bah, tu me l'as fait remarquer, du coup, moi, je suis partie en Jordanie pour ma troisième année à Sciences Po. À Sciences Po, il y a obligatoirement une année d'études à l'étranger. Et en fait, moi, j'avais plutôt bonnes notes à Sciences Po, tu vois, donc j'aurais pu essayer les grandes universités anglaises ou américaines. Mais alors moi, ça m'a jamais donné envie. En plus, je suis pas quelqu'un de très compétitif, donc j'avais pas du tout envie de me lancer dans tout un truc pour aller faire, je sais pas, une école de droit quelconque ou aux États-Unis, en Angleterre. Et je me suis dit, bah tiens, tiens, je vais faire un truc qui m'intéresse où je vais pouvoir rencontrer des gens et tout. Je vais aller apprendre l'arabe. Alors au début, je voulais aller en Palestine. Et puis bon, il m'arrivait des bon, j'ai eu des problèmes à cette période-là et en gros bon, c'est un peu long à expliquer, mais en gros Sciences Po m'a refusé tous les pays du Moyen-Orient, sauf ils m'ont dit bon, là il y a une possibilité pour la Jordanie. Alors, je me suis rendu compte que la Jordanie, personne voulait y aller parce que c'est un pays un petit peu ennuyeux, tu vois, on pourrait dire que c'est la Suisse du Moyen-Orient, il se passe pas grand-chose et la vie est très chère là-bas. Mais moi ça m'allait très bien parce que la Jordanie bah, c'est un très très bon milieu pour apprendre l'arabe parce que les gens parlent vraiment que arabe. Pas comme le Liban par exemple où il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, tu vois, voire même quelques personnes qui parlent français aussi. Bon, moi ça m'allait très très bien la Jordanie et j'ai très bien appris l'arabe là-bas, j'ai rencontré des gens formidables et donc voilà, c'était une
Palestinien.
Du coup, j'ai rencontré beaucoup de Palestiniens. Oui, j'habitais chez une famille palestinienne qui était adorable. Donc voilà, ça m'a permis aussi de mieux comprendre, de découvrir l'islam autrement. Du coup, je suis quand même allée en Palestine, je suis allée à Al-Quds, je suis allée au
Ouais.
Liban, et puis j'ai commencé à voyager en fait de plus en plus dans la région. Ouais.
Génial, génial. Tu dis que tu es issu d'une famille française. Tes parents, ils voyaient ça comment, que tu fasses tous ces voyages, t'intéresses à ça? Ils voyaient ça d'un bon œil ou pas spécialement?
Bah, mes parents, ils connaissent pas du tout, tu vois, comme je t'ai dit, on vient
Ouais.
d'un milieu de petite classe moyenne. Parents ont pas, mon père a un peu voyagé pour son travail, mais mes parents connaissent pas trop, en fait, tu vois. Et non, ils ont compris. Mes parents ont toujours été dans une démarche que je trouve incroyable. C'est qu'ils m'ont jamais poussé à faire des études. Ils m'ont toujours dit, fais quelque chose dans lequel tu es heureuse. Fais quelque chose qui te plaît, en fait. Si t'as pas envie de faire d'études, ne fais pas d'études, mais juste, si tu veux pas faire d'études, ne fais pas d'études par dépit, mais si tu trouves quelque chose qui nécessite pas d'études et qui te plaît, vas-y, tu vois. Ils m'ont jamais
Ouais.
poussé, en fait. Je voyais, j'avais des amis, quand ils avaient des mauvaises notes, ils se faisaient tuer à la maison, tu vois. Et moi, mes parents, voilà. En particulier ma mère, parce que j'habitais avec ma mère, bah, pas du tout, tu vois. Vraiment dans une démarche où elle me disait, bah, écoute, voilà, t'es libre, si tu veux bosser, bosse, si tu veux pas bosser, bosse pas. Déjà, je vais pas te forcer, et puis en fait, fais juste quelque chose que t'aimes. Et je la remercie parce que je pense que c'est un message très important à donner à nos enfants, tu vois. Espèce d'élitisme de dire il faut faire des études, il faut faire des études. Alors, moi, je suis très contente d'avoir fait des études parce que finalement, j'ai choisi de faire des études. Mais aussi, bon, maintenant, aujourd'hui, j'enseigne depuis 4 ans en tant que doctorante. Je donne des TD et des CM dans des facs diverses et variées. Et je rencontre beaucoup d'étudiants qui sont en licence de sociaux, bah, un peu par dépit, tu vois, parce qu'ils font des études, on leur a dit que c'était bien de faire des études, et en fait, ils se sont pas interrogés sur ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, tu vois, qu'est-ce qui a un sens pour eux. Et je trouve ça hyper dommage. Il faut faire des études si tu as envie de faire des études. S'il y a autre chose qui te fait rêver, faut pas tenir compte d'espèce de hiérarchie sociale. C'est mieux d'être ingénieur que d'être cuisinier. Enfin, tu vois, si ce que tu aimes, toi, c'est cuisiner, tu n'as aucune raison d'aller faire une école d'ingénieur, même si tu as des bonnes notes à l'école. Enfin, tu vois, il y a un moment. Donc non, moi j'ai toujours été poussée comme ça par mes parents, et du coup je pense que à partir du moment où ils se sont rendus compte que je faisais un truc qui me plaisait, bah ils étaient contents pour moi, tu vois.
Ouais, toi, ce qui te plaît dans ce que tu fais, du coup, c'est les études, ton doctorat, enfin tes voyages, etc., d'enseigner, ou tu sais derrière ce que tu veux faire avec aussi, c'est une finalité de faire ce qu'il y a derrière aussi qui t'intéresse, tu sais à peu près ce que tu veux faire.
Très bonne question, bah, c'est un petit peu un tout en fait. Je pense que déjà j'ai énormément de chance de faire un métier qui me plaît, mais qui me plaît à 100%, tu vois. Alors la thèse, c'est très compliqué en France parce qu'on est financé que 3 ans, alors qu'une thèse en sciences sociales, c'est 4, 5 ans, voire plus. On est très mal payé, tu vois. Bon, je vois des gens qui ont fait Sciences Po avec moi, qui ont fait voilà, les mêmes études que moi, qui sont payés 3 000, 4 000 euros par mois. Nous, on est payés. On a été augmenté en début d'année. Avant, on était payé 1 550 euros par mois. Maintenant, on est payé 1 750 euros par mois, net. Donc, c'est un salaire qui est un petit peu ridicule, en fait.
Survival.
Ouais, voilà, en comparaison des études qu'on fait. Donc, on n'est pas du tout considéré, en fait, hein. Ça, c'est un gros problème, notamment en tant que vacataire. Comme je te disais, je donne des cours à côté. Ça, je pense que c'est important de faire passer ce message. C'est qu'en fait, les doctorantes et doctorants qui donnent des cours, ce sont des centaines de milliers. J'ai plus les statistiques, mais il me semble que c'est une énorme majorité des enseignants en sciences humaines et sociales, dans les universités sont des vacataires. Donc, globalement, des doctorants ou des jeunes docteurs qui n'ont pas de poste. Et on est payé à l'heure en dessous du SMIC. Voilà.
Wow.
Alors même qu'on est payé par l'État, tu vois. On est payé en dessous du SMIC. On est censé être mensualisé. On ne l'est pas. Malgré le fait que dans la loi, il y a une obligation de mensualisation, on n'est pas mensualisé, donc on est payé tous les 6 mois, grosso modo. Et encore, on ne sait pas trop. Genre, qui paye son loyer tous les 6 mois, tu vois? On est payé, grosso modo, tous les 6 mois. Donc, en dessous du SMIC, comme je te le disais, en termes de taux horaire. Et enfin, voilà, nos droits ne sont pas du tout respectés. Donc, on est vraiment très, très mal considérés. Donc, à la fois, la thèse, c'est très dur de ce point de vue-là. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir été financée par l'Institut des migrations. Donc, qui m'a payé, voilà, mon salaire tout au long de ma thèse. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui font des thèses sans être financés, tu vois. Donc, qui s'autofinancent, qui doivent bosser à côté. Et c'est hyper dur. Donc, vraiment, la France ne fait rien pour favoriser les recherches en sciences humaines et sociales. C'est vraiment... Bah, c'est déplorable. Je ne sais pas comment le dire autrement. Un irrespect, en fait, envers les chercheurs, qui est immense. Mais à côté de ça, donc voilà... Malgré toutes ces difficultés, je trouve que c'est une chance énorme de pouvoir travailler sur un sujet que j'ai choisi et qui m'intéresse, tu vois. Je pense que c'est rare dans la vie, en fait, d'avoir autant de liberté. Quand tu fais une thèse, bah, tu travailles quand tu veux, comme tu veux. Donc, il faut être très autonome. Mais moi, tu vois, j'ai deux enfants en bas âge. Donc, j'ai eu ma première fille. Je me suis mariée. Bon, je pense qu'on en reparlera après. Mais je me suis mariée quand j'étais avant mon master. Voilà. Et ma fille est née à la fin de mon master 1. Donc, j'ai fait mon master 2 avec une petite fille. Puis, j'ai eu mon fils à la fin de ma première année de thèse. Au début de ma deuxième, pardon. Au début de ma deuxième année de thèse. Et en fait, c'est une grande chance de pouvoir aussi. Bah, adapter mes horaires, tu vois, pour pouvoir passer du temps avec mes enfants, pour pouvoir. Donc, je travaille, hein, évidemment. Je travaille même énormément. Je compte pas mes heures, je travaille le week-end, etc. Mais au moins, je peux adapter, en fait, mon temps de travail à mes prérogatives familiales, etc. Et je trouve que, à la fois, la liberté sur le contenu de mon travail et sur le format, à l'heure où il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, alors il y a beaucoup de gens en fait qui n'en peuvent plus de ce monde du travail où tu es réglé comme une horloge, tu dois être là à telle heure, tu repars pas avant telle heure, toutes les problématiques qui sont notamment liées aux femmes en fait et aux femmes qui sont mères par exemple avec la double journée de travail, le fait de devoir allier à la fois le travail et puis la vie de famille et on n'a pas envie de sacrifier nos enfants, tu vois, avec des idéaux sociétaux qui sont toujours plus forts en fait, où faut qu'on performe à la fois sur le plan du travail et à la fois sur le plan, bah voilà. De la vie familiale, de la vie conjugale, de la vie individuelle, il faut qu'on réussisse sur tous les plans. Bah, je suis assez contente finalement de pouvoir d'avoir cette possibilité de faire de la recherche et de l'enseignement. C'est des choses que j'adore en plus. J'aime beaucoup enseigner. Moi, j'aime bien transmettre, j'aime le contact humain. Et je suis aussi très contente de faire un métier que je trouve éthique, tu vois, dans lequel je peux un peu faire perdurer mes idéaux militants et politiques, parce que évidemment, quand on fait de la sociologie, ça fait très longtemps qu'on a renoncé au mythe positiviste, à l'idée qu'on est objectif. Quand je fais de la sociologie, évidemment, j'essaye d'avoir une réflexivité sur moi, qui je suis, quelle est ma position sociale par rapport aux gens auprès de qui je travaille, tu vois. Mais évidemment, c'est ma position sociale aussi qui influence sur mes résultats d'enquête, sur la manière dont je fais mon enquête, sur la manière dont je travaille. Et évidemment, il y a une part d'engagement, tu vois. On choisit pas nos sujets pour rien. Et ça ne veut pas dire que nos résultats sont moins valables ou que la sociologie est moins scientifique qu'une autre discipline, tu vois. Mais nous, on reconnaît en fait le fait que on a un point de vue spécifique sur la société, mais comme tout le monde. Et du coup, je suis très heureuse aussi de pouvoir faire un métier que je trouve éthique et qui, je l'espère, tu vois, permettra aux choses d'aller dans le bon sens, on va dire ça comme ça, que ce soit, bah, par l'enseignement, tu vois, j'essaie de donner le goût à des étudiants, de les aider et tout, et à la fois par mes recherches. Donc voilà, je me fais pas d'idées non plus. Il y aura pas des milliers de personnes qui vont lire ma thèse, mais bon, si à mon petit niveau, j'arrive à au moins faire quelque chose qui moi me semble vrai, qui moi me semble retranscrire une réalité, tu vois, bah, je suis très contente de le faire et vraiment je suis très heureuse tous les matins de me réveiller en me disant que je fais ça comme travail, tu vois, avec ma vie a un sens de ce point de vue-là qui est en cohérence avec mes idéaux, moraux, religieux, personnels, politiques, etc.
Avant de parler de ta thèse, tu disais plutôt que tu as eu tes deux enfants, donc une petite fille et un fils, hein, il me semble,
Oui.
pendant tes études, donc en master et en deuxième année de thèse pour le fils. Comment ça a été en fait de devenir mère, de se marier à cet âge-là? Souvent, on nous encourage plutôt à attendre la fin de nos études. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience par rapport à ça. Bon, voilà, nous dire un petit peu enfin, entre guillemets, tu regrettes, même si on regrette vraiment jamais, mais est-ce que voilà, c'était un process est-ce que tu as plutôt au contraire bien apprécié que ça s'est bien passé, ou ça a été vraiment plus difficile en tant qu'étudiante, tu penses, par rapport à une professionnelle?
Écoute, moi je regrette pas du tout. Je suis très très heureuse d'avoir fait comme ça. Bon, je suis quelqu'un qui fait pas tout comme tout le monde, donc ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas de voilà de faire des choses trop tôt ou trop tard ou voilà différemment. De toute façon voilà, en tant que sociologue, je me rends bien compte que tout ça c'est des normes sociales qui sont spécifiques à un contexte. Tu vois, bon, pour expliquer un peu comment ça s'est passé tout ça. En 2016, je crois. Donc, comme je disais, j'ai milité, tu vois, dans des collectifs d'aide à des personnes migrantes. Et j'ai rencontré donc un jeune homme yéménite qui avait à peu près le même âge que moi, donc qui venait du Yémen. J'ai rencontré, je donnais des cours de français en fait, donc j'ai rencontré bien, je donnais des cours de français à des mineurs. Et j'ai rencontré bien un mineur somalien qui m'a dit, attends, j'ai rencontré un mec qui vient du Yémen, il connaît personne, est-ce que tu pourrais l'aider? Enfin bref, ça a commencé comme ça. Donc voilà, j'ai rencontré, je l'ai aidé sur quelques démarches administratives. Et puis en fait, moi je suis partie en Jordanie et puis on a continué en fait à échanger par message. Et je suis revenue au milieu de mon année en Jordanie, je suis revenue en France et on s'est mariés religieusement. Et quand je suis revenue, bah, on s'est installés ensemble. Donc, bon, ça n'avait pas d'impact particulier sur mes études jusqu'à ce moment-là. Et puis, en fait, on a commencé à discuter d'avoir potentiellement des enfants. Enfin, moi, j'avais très envie d'avoir des enfants et plutôt jeune. Mais je voulais finir mon master avant. Donc, j'entrais en master à ce moment-là quand on a commencé à habiter ensemble. Et bon, évidemment, voilà, ça s'est pas passé comme prévu et je suis tombée enceinte en fait très vite. Et bon, je me suis dit, bah écoute, si ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, tu vois, c'est pas très grave. En fait, quand on a des enfants, même tu le sais, comme t'as un enfant aussi, on prend beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Et les études, c'est très important pour moi, mais je me suis dit, en fait, bah c'est pas grave, une année d'études, au pire, on la redouble. Enfin, tu vois, il y a rien en fait qui peut nous empêcher le fait d'avoir un enfant n'empêche pas du tout de faire ses études, tu vois. Donc bon, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai accouché en août, donc ça m'a permis de finir mon année. Et l'année d'après, du coup, je suis allée voir Sciences Po et je leur ai pas du tout dit que je venais d'avoir un enfant et que je voulais une année pour m'occuper de mon enfant parce que Sciences Po, c'est une institution extrêmement normative, extrêmement bourgeoise, et à Sciences Po les étudiantes donc pas du tout d'enfant à 20 ans, quoi, tu vois. Donc j'aurais dit que je voulais perfectionner mon arabe et que je voulais partir en Égypte. Et du coup, je suis partie en Égypte avec mon petit bébé à l'université d'Alexandrie. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon mari ne pouvait pas m'accompagner bah, pour des questions de visa. Du coup, j'ai embarqué ma petite sœur avec moi. Donc, j'ai trois frères et sœurs plus jeunes que moi. J'ai embarqué ma petite sœur avec moi qui venait d'avoir son bac, qui savait pas trop ce qu'elle voulait. Je lui ai dit, tu veux venir en Égypte, c'est gratos. Mais tu gardes ma fille. Donc, voilà, elle est venue avec moi. Et puis, en fait, on s'est débrouillé comme ça, tu vois. Et ça fait longtemps
Incroyable.
que. En fait, voilà, moi, j'essaie de me débrouiller, tu vois. J'essaie de bricoler dans ma vie pour que tout aille comme je veux. Voilà, il y a plein de normes sociales, il y a plein de choses qu'on nous facilite pas, tu vois. Mais finalement, tu peux toujours bricoler, en fait, quand tu y crois. J'ai passé une formidable année en Égypte. J'ai eu très bonnes notes. J'ai beaucoup amélioré mon arabe. Et en plus, bah voilà, j'ai pu passer cette première année avec ma fille parce que bon, les cours d'arabe c'était que le matin. Enfin, l'université dans les pays arabes en général c'est que le matin. Et voilà. Et quand je suis revenue, bah du coup voilà, quand je suis revenue en France, ma fille a 1 an. Elle est entrée à la crèche. J'ai fait mon master, j'ai eu 18 à mon mémoire, j'ai mention très bien mon master, donc ça m'a pas du tout empêché de faire mes études. Alors, il y a eu des nuits blanches, hein, il y a eu des jours de fatigue, évidemment. Mais en fait, ça m'a motivée. En fait, ça m'a motivée, tu vois. Je voyais plein d'étudiants qui font plein de choses à côté de leurs études, des soirées, je sais pas quoi. Enfin, moi, j'ai jamais été vraiment dans ce monde-là, ça m'a jamais vraiment intéressée. Moi, comme je te disais, je militais déjà beaucoup avant, en fait. Donc, à côté de mes études, c'est presque comme si j'avais. Donc, déjà, je faisais un double diplôme en licence. Et en plus, je passais mais vraiment des heures par jour dans les milieux militants à faire des choses, à faire des mobilisations, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours fait énormément de choses. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses. Et en fait, bah, le fait que j'ai eu ma fille, bah, ça m'a juste donné une raison de plus de me battre et de faire des choses, tu vois. Et bah pareil, après j'ai eu mon fils en thèse et ça m'a pas du tout empêché de faire plein plein de choses. Et je pense que les enfants, c'est un moteur. Moi, je suis très contente d'avoir eu mes enfants. Et je suis aussi très contente de les avoir eus pendant mes études parce qu'en fait, quand on fait des études quand même, on travaille beaucoup. Mais on peut aménager son emploi du temps, tu vois. Peut-être plus qu'une personne qui travaille dans une entreprise 40 heures par semaine. Moi, je suis très
Non, c'est
contente parce
vrai.
que chacun fait comme il veut avec ses enfants, mais moi, j'avais envie d'avoir des enfants pour que ce soit moi qui les élève. Pas pour qu'ils soient élevés par d'autres gens. Pour qu'ils soient élevés bah, par moi ou en tout cas au sein du cercle familial, tu vois, avec les valeurs qui sont les nôtres. Et bah, c'est quelque chose que j'ai l'impression que j'arrive à faire, tu vois. Et la thèse, pareil, ça m'a donné plein d'opportunités bah, voilà, de pouvoir passer beaucoup de temps. Là, mon fils, il va avoir 2 ans, il n'est jamais allé à la crèche, tu vois. Bon, là, il va y rentrer en septembre, mais tu vois, j'ai pu passer énormément de temps avec mes enfants. Et vraiment, je suis très, très contente de ça. Donc, je ne vais pas dire que je conseille aux gens de faire des enfants pendant leurs études.
Ouais.
Mais c'est pas impossible, en fait. C'est pas du tout impossible, loin de là. Et aussi, je pense que quand on est jeune, on a des ressources qu'on n'a peut-être pas quand on a 35, 40 ans, tu vois. Pas des ressources en termes financiers, ça, évidemment, on n'en a pas. Mais des
Ouais.
ressources aussi en termes d'énergie, tu vois, de motivation, de. Et puis aussi, voilà, une distance par rapport aux normes sociales aussi, de se dire que, bon, en fait, on n'a pas besoin de faire vraiment comme tout le monde, tu vois. Donc, voilà, c'est pas du tout, vraiment, s'il y a des. S'il y a des petites sœurs qui m'écoutent et qui font leurs études et qui vont avoir des enfants, je sais qu'il y en a parce que j'en ai déjà rencontré pas mal qui étaient plus jeunes que moi et qui se demandaient comment elles allaient faire. C'est possible, on peut y arriver très très bien. Voilà.
Bah écoute, très bien, Morgane. Tu parles beaucoup de normes sociales et du fait que tu essaies de détacher un petit peu des normes sociales. Je ne vais pas te mentir, moi aussi, souvent, j'essaie souvent de me détacher dans plein d'aspects. Et parfois, c'est difficile hein, auprès de son entourage et même de la pression sociale. Hein. Quelles sont les grosses normes sociales que toi, tu appuies peut-être avec du recul, je ne sais pas si tu t'en rends compte, ou que tu as pu identifier dans lesquelles tu t'es détaché, tu essaies de te détacher en tout cas?
Oh, très très vaste question pour une sociologue. En fait, c'est pas tant que j'essaye de me détacher des normes sociales que, en fait, ce que je trouve intéressant avec la sociologie, c'est qu'on comprend que ces normes, c'est des normes qui sont contextuelles, qui sont pas universelles en fait, que c'est des normes qui sont liées à un temps, à un lieu, et souvent qui ont une raison d'être en fait, qui ont une raison d'être parce qu'elles permettent de perpétuer une forme de domination, soit une domination de race, de sexe ou de classe. Tu vois, globalement, c'est ça l'idée. À partir du moment où tu sais ça, bah, que tu comprends le pourquoi du comment, tu peux prendre une distance beaucoup plus grande avec ces normes, tu vois. Donc,
Ouais.
c'est pas que j'essaye de. Enfin, voilà, je suis pas là pour casser les normes, pour casser les normes, tu vois. Bon, au quotidien, j'essaie d'être une personne adaptée socialement, parce que c'est très important aussi de savoir s'adapter socialement au contexte dans lequel on vit, tu vois, pour pouvoir. Bah, les normes, c'est aussi une façon. De créer quelque chose en commun avec les gens avec lesquels on vit, tu vois.
Ouais.
Quand on vient d'une même société, en fait, ce qu'on a en commun, encore plus que la langue, encore plus que les habitudes culinaires, même si c'est des choses qui sont hyper importantes, bah, c'est des normes en commun, tu vois. C'est que bah, on trouve les mêmes choses drôles, on trouve les mêmes choses bizarres, on trouve les mêmes choses honteuses, on trouve les mêmes choses polies, impolies, tu vois. Donc,
Ouais.
bon, les normes sociales, en fait, voilà. Ce qui est intéressant, je pense, c'est toujours d'essayer de se demander pourquoi. Pourquoi cette norme-là, elle existe? Et alors voilà, donc du coup il y a des normes à mon avis qu'on peut essayer de dépasser, qu'on peut essayer de dont on peut essayer de s'affranchir, tu vois, parce que c'est des normes qui reproduisent une domination, et puis des normes aussi qui bon voilà qu'il faut essayer de qu'on peut essayer de respecter pour créer du lien, pour créer du commun au sein de la société. C'est très important. Enfin, ce que je veux
Ouais.
dire, c'est que je veux pas diaboliser les normes. Les normes, c'est aussi
Bien
très très
sûr.
important, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des règles. Il y a des règles dans toutes les sociétés, il y a des règles dans toutes les religions, il y a des règles dans tous les groupes sociaux, parce que c'est les règles qui nous permettent de vivre en commun. Mais quand c'est des normes qui encore une fois voilà sont là, qui ont été construites finalement avec tout un imaginaire autour pour reproduire des dominations, là on peut s'interroger, tu vois. Sur le bien fondé de la perpétuation de ces normes. Bah, je pense par exemple à des normes autour du comportement sexuel des femmes, tu vois. Je pense à des normes autour de la beauté qui serait blanche, tu vois. Je sais pas, je prends un exemple comme ça, tu vois, mais le fait de dire qu'il est plus beau d'être blanc que d'être noir, tu vois. Je sais pas, d'inciter par exemple les jeunes filles noires à avoir les cheveux lisses, tu vois. Bon,
Ouais.
c'est ça. Je te dis ça parce que j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps sur ce sujet-là, tu vois. Par exemple, tu pourrais dire, bon, bah, ça c'est une norme de beauté, bon, c'est pas très grave, mais non, parce qu'en fait, c'est une
Ouais.
norme de beauté qui a une origine en fait de domination de race, tu vois, qui a une origine qui est liée au racisme, qui est liée à la colonisation, tu vois.
Ouais.
Bah voilà, bah par exemple, dans notre société actuelle, bon, malheureusement, hein, quand on voit la société des, la, pardon, la situation des musulmans, dans la société actuelle, le fait qu'on empêche, à des jeunes filles voilées, en fait, de pouvoir faire des études ou de pouvoir travailler, où elles voudraient, bah ça, c'est une norme cet idéal français qui sera un idéal d'une femme qui ne serait pas voilée, bah évidemment, c'est un idéal qui est lié, en fait, à la colonisation, tu vois. Je sais pas, tu vois, quand on s'interroge, voilà, juste s'interroger sur le bien fondé des normes qu'on respecte et pourquoi est-ce que je choisis de respecter telle ou telle norme et pas le faire en se disant juste que c'est une norme sociale et du coup je la respecte, tu vois. Mais bon, je pense que parmi tes auditeurs, enfin, voilà, les gens savent bien, en fait, à quel point le système social dans lequel on vit en France, et pas seulement en France, hein, évidemment, mais est construit sur des systèmes de domination, sexe, classe, race, tu vois, donc. Je pense que ils sont à même de se poser des questions sur toutes ces normes-là, mais tout le monde ne le fait pas, tu vois. Et je pense que c'est vraiment important d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense, tu vois.
Ouais, c'est un exercice qui est pas facile de faire l'effort de se poser la question.
Ouais.
Bon, c'est un exemple anodin, hein, mais juste hier, ma femme a ramené un cadeau, ma petite fille, enfin, elle est allée voir une de ses anciennes amies, qui lui avait donné une poupée pour la petite fille.
Ouais.
La poupée, c'était typiquement, tu vois, femme blanche, une poupée blanche, avec les cheveux blonds, tout lisse, les yeux bleus, etc., en mini-jupe. Je lui fais, mais c'est quoi ça? C'est quoi l'image qu'on essaie de...
Bah,
C'est
bien sûr.
quelque chose d'anodin, tu vois. Tu te dis non, c'est juste un jeu. Mais si tu l'entoures de ça, la petite fille, au fur et à mesure, elle te dira, ah, voilà, moi aussi, je veux avoir des cheveux comme ça. C'est ça l'idéal de beauté.
Ouais, évidemment. Bah, j'avais vu il n'y a pas longtemps une vidéo d'une expérience sociale, un truc sur les réseaux sociaux. Hein. Sûrement des gens qui l'ont vu parmi tes auditeurs. En fait, une petite fille, des enfants, on leur propose une poupée noire et une poupée blanche. On leur dit laquelle tu veux. Et tous les enfants veulent la poupée blanche, même les enfants noirs. Donc évidemment, ça pose plein de questions aussi de représentation, tu vois, comment est-ce que les enfants qui ne sont pas blancs se sentent représentés à la télé, tu vois, ou dans les poupées. Parce que, bah, voilà, une poupée, par exemple, on est censé s'identifier, tu vois, quand on joue avec une poupée, quand on joue avec un petit personnage, tu vois. Donc ça, bah évidemment, quand on a des enfants, c'est plein de questions qu'il faut se poser, tu vois. Aussi des questions liées à la sexualisation, tu vois, à la sexualisation des enfants. Parce que finalement, bah, quand on voit parfois. Comment peuvent être habillés, comment on peut avoir envie d'habiller, de surpomponner des petites filles, tu vois, avec des vêtements qui les empêchent en fait de jouer correctement, tu vois, de jouer comme les autres enfants, tu vois. Parfois je vois des petites filles avec des chaussures qui sont pas, alors qui sont très mignonnes, tu vois. Mais est-ce que le but d'un enfant c'est d'être mignonne et d'être belle, ou est-ce que le but, enfin, est-ce que le but du jeu pour un enfant c'est justement de pouvoir jouer avec ses copains dans la cour de récréation et de pouvoir courir et de pouvoir grimper aux arbres, tu vois. Donc ça, je pense que c'est des trucs auxquels il faut faire attention. Souvent, les gens, c'est ça que je te dis, que c'est le problème des normes sociales, parce que souvent, les gens, ils le font pas du tout avec un mauvais sentiment. Les parents, quand ils habillent leur petite fille avec une petite robe et des petites chaussures mignonnes, ils le font en disant, oh, bah, c'est trop mignon, tu vois. Et ils le font pas du tout en disant, je vais sexualiser ma fille, et parce que c'est une petite fille, je vais l'habiller comme ça, avec des vêtements qui l'empêchent de se mouvoir et qui l'empêchent d'avoir autant de capacité d'agir qu'un petit garçon, tu vois. Mais c'est quand même des questions qu'il faut se poser, parce que c'est des questions hyper importantes, en fait. Les petites filles, elles sont moins bonnes au sport que les petits garçons. Bah, pourquoi? Bah, déjà, il faudrait qu'on leur permette, tu vois, de pouvoir courir correctement, de pouvoir se mouvoir correctement. Alors, moi, j'essaie de faire très attention, tu vois, avec ma fille, justement, de lui mettre toujours des vêtements. Alors, l'idée, c'est pas, par exemple, de dire que tout ce qui est rose et tout ce qui a des paillettes, c'est pas bien. C'est pas du tout ça l'idée, en fait. Parce que... Le problème, c'est pas les couleurs, le problème, c'est pas les, tu vois, le problème, c'est juste de se dire pourquoi est-ce qu'il y a un type de vêtement qui serait réservé aux petites filles, et en plus qu'il y a un type de vêtement qui les contraint, tu vois. Donc, par exemple, bah, ma petite fille, elle veut mettre des robes, tu vois. Je dis, tu peux mettre des robes, tu vois, si tu as envie de mettre des robes pour te sentir reconnue parmi tes pairs, pour te sentir petite fille parmi les petites filles, tu vois, c'est pas un problème. Mais tu vas mettre une robe assez courte pour pas que ça te gêne pour courir, avec un pantalon dessous pour pas que ça t'empêche de jouer, tu vois, avec la peur qu'on voit ta culotte, ou enfin, tu vois, aussi pour des raisons que tout le monde connaît, tu vois, mais que bon, j'ai pas envie que tout le monde puisse voir, voilà, l'intimité de mon enfant, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est important aussi. Et puis je vais te mettre des baskets, tu vois. Et ça, c'est des choix, en fait, qu'on peut faire. À la fois en étant raisonnable, tu vois, en se disant que bon, c'est des choix qu'on fait pour des raisons pratiques, mais aussi c'est des choix qu'on peut faire pour des raisons un peu politiques, tu vois. Voilà, cette volonté de permettre aux petites filles de pouvoir autant jouer dans la cour de récréation que les petits garçons, sans être gênées, en disant, bah oui, mais si je fais ça, on va avoir ma culotte, tu vois. Bah, je pense que c'est aussi hyper important. Et qu'en tant que parents, en fait, on a une énorme responsabilité de penser tout ce qu'on fait, bah, pour essayer de permettre à nos enfants, tu vois, de, bah, voilà, encore une fois, d'avoir le plus de capacité d'agir possible, de pouvoir faire des choses, en fait, de pouvoir essayer, de pouvoir faire des choses, que ce soit des filles ou des garçons. Alors, heureusement, c'est des choses qu'on entend de plus en plus, tu vois. Et heureusement, ça devient quelque chose de plus en plus évident, mais bon, je pense que c'est toujours bon de le rappeler et de voir aussi, en fait, toujours l'enjeu politique qui est derrière. Parce que l'enjeu politique, derrière les vêtements des femmes, souvent, tu vois, si je prends l'exemple, et quand je parle des vêtements des femmes, attention, hein, je ne parle pas des vêtements des femmes dans les pays arabes, hein, je parle des vêtements des femmes partout dans le monde. Quand on voit par exemple que la norme pour une femme qui travaille par exemple dans un bureau en France, on va dire, c'est d'avoir une jupe et des talons, tu vois, bah ça, c'est
Ouais.
une tenue qui est créée pour rendre une femme vulnérable. Parce qu'avec une jupe et avec des talons, on est vulnérable, on ne peut pas courir, on ne peut pas bouger comme on voudrait bouger, tu vois. On est obligé d'avoir une certaine démarche, d'avoir une certaine, tu vois. Et en fait, il faut penser ça de façon politique. Il faut penser en quoi nos vêtements, c'est pas du tout quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui est lié à nos goûts personnels, c'est quelque chose qui est lié à une norme sociale. Et cette norme sociale, elle est fondée sur des critères, qui sont des critères de domination, de sexe, de classe et de race. Voilà, toujours, toujours, il faut penser ça, en fait, pour tout dans notre vie. Et se demander pourquoi. Voilà.
Comment est-ce qu'on trouve les réponses par rapport à ça?
Bah, il n'y a pas de réponse toute faite, tu vois, mais
Comment est-ce qu'on comprend en tout cas
En
s'il y a des
lisant la
références?
sociologie,
On... Ouais.
en lisant la sociologie, ouais, en
Donc il y
lisant
a
la
des gens qui écrivent
sociologie.
sur ça spécifiquement.
Il y a des gens qui écrivent sur ça, bien sûr. Je sais pas, attends, je vais essayer de trouver des exemples ou des références, intéressantes. Bah, tu vois, moi, je travaille sur la maternité. Donc, depuis tout à l'heure, on parle un petit peu des enfants, de l'éducation des enfants, de la façon dont on éduque les enfants, mais rien qu'en fait dans le fait, dans la naissance en fait, et dans la façon dont on met des enfants au monde aujourd'hui en France, tu vois, il y a plein d'enjeux politiques. Et encore une fois, c'est des choses dont on parle de plus en plus et c'est très intéressant. Une philosophe française qui s'appelle Elsa Dorlin a écrit un livre que j'adore qui s'appelle La matrice de la race. En fait, elle explique. Elle fait un petit peu une forme d'histoire des savoirs, d'histoire du développement de la médecine, en expliquant comment, au départ, les femmes mettaient au monde leurs enfants par elles-mêmes, aidées par d'autres femmes, tu vois, de leur entourage. Et de plus en plus, en fait, l'État a voulu prendre le contrôle, en fait, sur la naissance des enfants. Dans un objectif de politique nataliste, en fait, dans un contexte de guerre, je crois que c'est au début de la Renaissance ou à la fin du Moyen Âge. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est l'État qui a commencé à mettre en place, qui a commencé en fait à légiférer autour de qui a le droit de faire accoucher, de qui a le droit de prodiguer des soins, qui a commencé à former de plus en plus de médecins, qui sont devenus des médecins obstétriciens. Donc les médecins ont commencé à s'intéresser à la gynécologie et à l'obstétrique, qui étaient des sujets qui n'intéressaient pas du tout les hommes avant, qui étaient considérés comme pas du tout, en fait, pas du tout valorisants, tu vois. Et en fait, ça a conduit finalement à une médicalisation de plus en plus forte des accouchements, à l'interdiction aussi pour les matrones, tu vois, qui étaient un peu des sages-femmes traditionnelles, tu vois, qui étaient des femmes qui faisaient accoucher grâce à des connaissances qu'elles avaient acquises par l'expérience. Hein. Ces femmes-là ont peu à peu été interdites de faire accoucher. D'ailleurs, ce sont ces mêmes femmes qui ont été aussi poursuivies lors de la chasse aux sorcières en Europe à la fin du Moyen Âge, tu vois. Donc c'est à peu près c'est un mouvement en fait commun. Ça, c'est quelque chose dont parle une autre sociologue qui est très intéressante, qui s'appelle Silvia Federici dans Caliban et la sorcière. Donc comment toute cette période en fait de chasse aux sorcières contre les femmes, c'était aussi une façon pour l'État de se réapproprier tous les savoirs médicaux qui étaient des savoirs des femmes en fait à cette époque-là, pour créer voilà un ordre médical masculin qui serait le seul propre à contrôler le corps des femmes et à contrôler la façon dont les femmes mettent au monde, à interdire aussi évidemment les pratiques abortives, hein, dans un objectif en fait de créer une politique nataliste. Pour qu'il y ait de plus en plus, pour que les femmes fassent de plus en plus d'enfants, pour qu'il y ait de plus en plus de chair à canon, en fait, à envoyer à la guerre. Bon. Donc déjà, on voit en fait tous les enjeux vraiment de pouvoir qui se cristallisent autour du corps des femmes. Les femmes produisent des enfants, et quand on a besoin d'enfants, il faut pouvoir contrôler les femmes pour faire en sorte qu'elles fassent le plus d'enfants possible. Et en fait, ce qui est très intéressant avec, et donc ça évidemment, c'est quelque chose qu'on rencontre toujours aujourd'hui, hein, la médicalisation de l'accouchement qui pose encore plein de problèmes, avec les violences gynécologiques et obstétricales, t'en as sûrement entendu parler, des femmes à qui on fait des épisiotomies sans leur demander leur avis pour faciliter l'accouchement, tu vois, qu'on va qu'on va inciter à faire une césarienne ou à accepter une péridurale, tu vois, pour qu'elle soit plus facilement contrôlable en fait par le corps médical, ou à accoucher, tu sais, de la position d'accouchement où tu es sur le dos avec les jambes écartées, qui est pas du tout une position d'accouchement qui est
Naturel.
physiologique et qui permet à l'accouchement de se passer correctement, tu vois, mais en fait qui est plus facile pour le médecin pour contrôler l'accouchement. Donc ça, c'est des enjeux dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Mais tu vois, quand tu remontes grâce à des travaux comme ceux d'Elsa Dorlin par exemple, ou ceux de Silvia Federici, tu te rends compte que ça, c'est lié à une volonté politique de prendre le pouvoir sur la capacité de procréer des femmes. Et ce qui est génial aussi dans le bouquin d'Elsa Dorlin, c'est qu'elle va montrer le lien, en fait, du développement de cette médecine avec la création d'un imaginaire raciste. En fait, elle va montrer, donc, son bouquin s'appelle La matrice de la race. Donc, la matrice, c'est à la fois l'utérus et à la fois la matrice, c'est quelque chose qui est à l'origine, tu vois. Et en fait, elle explique que en fait, avec cette volonté, par cette volonté, je résume hein, vraiment dans les grandes lignes son bouquin qui est hyper détaillé, qui est très intéressant. Je conseille à tout le monde de le lire. C'est assez abordable. Hein. C'est grosso modo de l'histoire, mais c'est assez abordable. Et en fait, pour légitimer cette prise de contrôle aussi sur le corps des femmes, le pouvoir médical va créer toute une espèce de théorie autour des humeurs, qui expliquerait que les femmes, en fait, les femmes seraient naturellement chaudes et humides, et les hommes seraient naturellement froids et secs. Et en fait, les hommes sont froids et secs. Enfin, le fait que les hommes soient froids et secs leur permet d'avoir accès à la raison. Tu vois, la raison, c'est quelque chose qu'on oppose souvent aux émotions. Tu vois, on dit, bah, sois raisonnable, calme-toi, ne fais pas ça dans l'émotion. Tu vois, donc les hommes auraient accès à la raison. Et puis les femmes seraient toujours dans l'émotion, donc les femmes seraient pas du tout aptes à décider, à pouvoir prendre une décision de façon réfléchie, tu vois. Et là, c'est quelque chose qui va perdurer en fait jusqu'aux Lumières, cette idée donc d'une opposition de la raison et des émotions, et puis ensuite dans le positivisme, dans la science, et encore jusqu'à aujourd'hui, on continue d'opposer tout le temps la raison aux émotions. Les femmes, elles sont hystériques, elles sont dans l'émotion, et puis la raison, c'est la science, tu vois. Une opposition qui est complètement contextuelle et qui est liée aussi à plein d'enjeux politiques. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, ce que montre Elsa Dorlin, c'est que bon, voilà, il y a eu cette création de toute une espèce de théorie des humeurs, donc pour expliquer pourquoi les femmes sont inférieures aux hommes. Et qu'en fait, cette théorie, grosso modo dans les grandes lignes, ils l'ont appliquée aussi aux populations non blanches, pour expliquer que, grosso modo, les non blancs, ils sont comme les femmes. Ils sont chauds et humides. J'ai pas envie de rire en disant ça, mais c'est très très grave. Et en fait, ça va expliquer le fait que, bah, tu vois, jusqu'à la colonisation, on va continuer de considérer, et encore aujourd'hui, hein, dans l'imaginaire raciste, que les personnes, par exemple, originaires d'Afrique, seraient plus sauvages, seraient plus sexuelles, tu vois, ne pourraient pas se maîtriser, tu vois. Et tout cet imaginaire qu'on trouve notamment autour des migrants, tu vois, des migrants subsahariens qui viendraient pour agresser sexuellement des femmes blanches, tu vois, avec toute cette idée, en fait, que les personnes non blanches n'auraient pas accès à la raison, tu vois, n'auraient pas accès. Eh bien, tout ça, en fait, ça découle de cet imaginaire-là, tu vois, qui, à la base, est un imaginaire qui était construit sur l'opposition homme-femme et qui a après été appliqué, en fait, au niveau de... dans une hiérarchie de... dans l'idée, en fait, de créer une hiérarchie de race. Et ce qu'explique Elsa Dorlin, mais l'explique encore plus Silvia Federici, c'est que tous ces enjeux, en fait, de décrédibiliser et de délégitimer, en fait, à la fois les femmes et à la fois les personnes non blanches. Alors, je dis personnes non blanches, mais en fait, je devrais dire les personnes noires ou les personnes arabes, tu vois, pas les définir par défaut, tu vois. L'idée, en fait, c'était... qu'on est à une période où pré-capitaliste, où on va devoir accumuler de plus en plus pour pouvoir permettre bah, l'émergence du véritable capitaliste, du véritable capitalisme, pardon, et que du coup, on va devoir trouver de plus en plus de main-d'œuvre et de la main-d'œuvre de moins en moins chère. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre les femmes au travail, hein, en les coupant progressivement bah, du monde du travail, qui est un monde du travail dans lequel les femmes exerçaient, pour les mettre de plus en plus à la maison. En expliquant que voilà, donc les femmes ne sont pas capables de travailler correctement, les femmes doivent rester à la maison, voilà, et puis procréer. Et puis bah, pour les personnes originaires notamment d'Afrique, eh ben on va les mettre en esclavage en fait pour pouvoir avoir du travail, de la main-d'œuvre gratuite, tu vois.
Pour remplacer la main d'œuvre, en fait.
C'est ça. Et toute cette imaginaire en fait sexiste et raciste qui était à se construire à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait pas de sexisme et racisme auparavant. Mais là, c'est un sexisme et un racisme systémique, tu vois, qui vont être légitimés à la fois par la religion catholique, à la fois par la médecine et la science, tu vois, qui vont vraiment va être légitimés en fait par toutes les grandes sources de pouvoir, bah, va permettre de légitimer bah, l'esclavage, la chasse aux sorcières en Europe et la colonisation aussi plus tard, tu vois. Et encore aujourd'hui, tu vois, bah, quand on voit le traitement médiatique des mobilisations suite à l'assassinat de Naël la semaine dernière ou il y a 2 semaines. En fait, on est tout le temps là, on est toujours là-dedans. On est toujours là-dedans de cette idée que les Noirs et les Arabes n'auraient pas accès à la raison et seraient seulement dans l'émotion, dans la sauvagerie, tu vois. Et c'est incroyable, je trouve, de découvrir, de pouvoir, avec ce type d'ouvrage, aller explorer, en fait, la construction de cet imaginaire et de voir que c'est quelque chose qui est ancien, mais c'est quelque chose qui est contextuel. C'est quelque chose qui existe et qui existe pour une raison, dans un contexte de volonté de créer une
C'est
société
jamais anodin.
capitaliste. Bah, c'est pas anodin et c'est pas universel. Donc ça veut aussi dire qu'on peut le combattre, tu vois. Ça veut aussi dire que c'est pas définitif. Ça a été créé à un moment donné, donc ça peut aussi disparaître.
Très bien. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je mettrai les références dans la description de l'épisode. On va parler un petit peu de ta thèse quand même. Donc,
Oui, on va parler plus de ma thèse. Bon, c'est un peu lié
le
à ces
temps.
questions-là, hein, mais.
C'est lié. On a parlé de ton mari qui est yéménite. Du coup, ça va aussi créer le lien. Avec ton sujet de thèse. Donc, je te laisse faire la transition. Donc, pourquoi tu as choisi ce sujet-là et nous parler un peu des grandes lignes, un peu des enjeux de ton sujet de recherche et de ta thèse.
Bon, alors vous l'aurez compris, je travaille sur les questions de domination sexuelle et de domination raciale, quoi, hein, grosso modo. Et évidemment, ça se voit un petit peu. Donc, en fait, moi, alors. Dans quel sens prendre le truc? On va prendre le truc peut-être dans l'ordre chronologique. Ça me paraît important de montrer comment est-ce qu'on construit un sujet de recherche. En fait, quand on veut faire une thèse, la plupart du temps, on se dit pas, bah, tiens, je vais prendre une map monde, je vais choisir un pays au hasard et puis je vais choisir une thématique au hasard, tu vois. Ça, c'est des choses qui se construisent en amont, tu vois. Donc, voilà, moi, comme je te l'ai dit, j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé avec des personnes migrantes, et je me suis aussi pas mal militée dans des organisations aussi féministes. Et bon, ça c'est d'un côté, d'accord? On fait comme si on l'oubliait, et puis après, on se dit que, voilà, j'ai rencontré mon mari, qui est yéménite, on a eu des enfants, et puis le moment venu, donc, de choisir, au début, c'était pour mon mémoire de fin d'études à Sciences Po, en M2, donc je faisais de la recherche, donc il fallait vraiment faire un mémoire de recherche, un truc un peu costaud, d'une centaine de pages et tout. J'avais choisi plusieurs, j'avais plusieurs idées de trucs qui m'intéressaient, puis à chaque fois c'était compliqué, parce que je me dis, il faut que j'y aille avec ma fille et tout, j'aurais personne pour la garder sur le terrain. Bon. Et en fait, on est allé à Djibouti pour la première fois, du coup, pour rencontrer la famille de mon mari. Donc, mon mari est yéménite, mais bon, comme je pense que tout le monde le sait, depuis 2014-2015, le Yémen est en guerre. Et la situation est très difficile d'un point de vue à la fois sécuritaire et à la fois économique au Yémen. Et donc la famille de mon mari est partie habiter à Djibouti, qui est un petit pays qui est situé à 30 km des côtes yéménites. Donc le Yémen, c'est sous la au sud-ouest de la péninsule arabique, donc sous l'Arabie saoudite. Et Djibouti, c'est tout au bout de la corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est. En fait, c'est très proche, hein, finalement, géographiquement. Il faut juste traverser un petit bras de mer qui s'appelle Bab el-Mandeb. Et donc, sa famille est partie habiter là-bas. Et puis, donc, nous, on allait les visiter, donc, avec ma fille. Et en fait, bon, moi, je connaissais déjà bien le monde arabe. Je parlais arabe, tu vois, mais bon, je parlais pas yéménite. Donc, j'ai commencé à apprendre petit à petit à parler yéménite. Et puis, j'ai rencontré sa mère, j'ai rencontré la femme de son frère, j'ai rencontré des voisines, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Et au Yémen, il y a une séparation des sexes qui est assez stricte, tu vois. Donc, vraiment, les femmes restent avec les femmes, les hommes restent avec les hommes, et les femmes sortent assez peu, en fait. On sort, par exemple, pour aller au parc de jeux ou au mall, au parc de jeux avec les enfants ou au mall, mais grosso modo, les femmes restent beaucoup à la maison, donc j'ai pu côtoyer beaucoup de femmes. Et j'ai trouvé ça bon, et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart de ces femmes étaient arrivées récemment. Donc elles étaient arrivées depuis 2015, depuis la guerre. Mais que paradoxalement, la plupart aussi avaient un lien plus ancien avec Djibouti, parce que des hommes de leur famille avaient déjà immigré à Djibouti avant, en tant que commerçant, pour commercer. Je me suis dit, c'est intéressant, ça, on est dans. Bon, je réfléchissais un peu avec mon avec mon bagage de sociologue, je me dis, bah tiens, c'est intéressant. C'est une migration qui est à la fois une migration de guerre, une migration récente, et en même temps, c'est une migration ancienne, une migration commerçante, tu vois. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent dans les mouvements migratoires, parce que les gens ne vont pas n'importe où, tu vois. C'est souvent des phénomènes de chaîne
Ouais.
migratoire. Quand tu veux partir de ton pays parce qu'il y a une guerre, parce qu'il se passe quelque chose, tu vas aller quelque part où il y a des gens que tu connais, qui pourront t'aider, qui pourront te servir de ressources, en fait,
Ouais.
sociales, qui pourront peut-être t'héberger, qui pourront t'aider à trouver un travail, etc. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais lire des trucs sur les Yéménites à Djibouti. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Et quand il y avait des choses, c'était des choses anciennes. Et c'était des choses, des travaux d'hommes. Et qui, parce qu'ils n'avaient pas du tout accès aux femmes, bah, expliquaient qu'en fait, il n'y avait pas de femmes. Et voilà, que de toute façon, voilà, c'était pas, s'intéressaient pas du tout en fait, à la question des femmes. Donc, bon, je rappelle, les femmes, c'est quand même 50% de la population. Je me disais, bon, c'est un peu problématique quand même qu'on ait lu de la question comme ça. On travaille sur les Yéménites à Djibouti, mais en fait, on travaille que sur les hommes, mais sans dire les hommes, tu vois. On dit les Yéménites, mais comme si les Yéménites étaient que des hommes. Et puis, comme on n'a pas rencontré de femmes parce que nous, on est des hommes, bah, on écrit qu'il n'y a pas de femmes, et puis voilà, le problème est résolu. Je me suis dit, bon, c'est. Ouais, c'est pas terrible quand même. Mais il y a plein de femmes, et il y a des trucs très très intéressants aussi à dire, tu vois. Elles ont plein de choses à dire. La plupart n'ont pas du tout choisi de venir à Djibouti. La plupart n'aiment pas du tout leur vie à Djibouti. Elles sont venues avec leurs enfants dans un contexte, donc, comme je te disais, voilà, de guerre, donc avec toute la problématique de l'éloignement avec le territoire yéménite, du fait de vouloir éduquer leurs enfants vraiment en tant qu'yéménites, dans l'espoir qu'ils puissent retourner au Yémen bientôt. Mais loin du Yémen, loin des générations précédentes, des grands-parents qui sont restés au Yémen, etc. Mais tiens, c'est intéressant, comment on fait pour élever un enfant yéménite loin du Yémen, tu vois? Puis ça me posait évidemment des questions par rapport à mes propres enfants à moi, qui sont yéménites et qui grandissent en France pour le moment, tu vois? Et je me suis posé plein de questions, voilà, et en particulier, voilà, on dit tout le temps que c'est les hommes, que c'est les pères qui transmettent l'identité dans les sociétés patriarcales, patrilinéaires. Donc, que ce soit les sociétés européennes, mais les sociétés arabes aussi, tu vois, c'est l'homme qui transmet le nom de famille, c'est l'homme qui transmet tout, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vrai, et que c'était surtout les mamans qui transmettaient beaucoup, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, je vais travailler là-dessus. D'un point de vue pratique, c'est plus facile parce que je connais des gens, parce que quand je vais là-bas, bah, ma fille, bon, à l'époque, j'avais que ma fille peut rester avec ses cousins et sa grand-mère. Donc, en plus, je me suis dit, ça va me donner, franchement, je le dis comme ça, j'ai pas honte, mais je me suis dit, bah, ça va me permettre, en fait, ça va me donner une raison. Et ça va me permettre de venir tous les ans à Djibouti pour que ma fille puisse grandir aussi avec sa famille, plusieurs mois par an, tu vois, avec sa famille paternelle. Et bah, ça va m'aider d'un point de vue aussi financier parce que du coup, moi, comme je viens aussi en tant que sociologue, bah, mon terrain peut être financé, tu vois. Et en même temps, je peux faire en parallèle, tu vois, mon étude ethnographique et puis en parallèle, ma fille peut passer du temps avec sa famille. Et en fait, c'est un peu un tabou dans le monde de la recherche. Tout le monde fait comme si ils avaient découvert leur terrain de recherche comme ça, qu'ils n'avaient aucun lien avant, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui sont bah, soit mariés avec une personne originaire de ce pays-là, soit qui ont eux-mêmes des liens familiaux. Enfin, il y a tout le temps des raisons. C'est très rare que des gens choisissent des sujets comme ça. Et d'ailleurs, je trouve que ça sera un peu problématique, tu vois, de se dire, bah tiens, je trouve ça hyper exotique, les Yéménites à Djibouti, je vais aller là-bas, tu vois.
Ouais, c'est quand même bizarre, ouais.
Comme je te disais, on est quand même à un moment dans l'histoire des sciences sociales, on reconnaît qu'on n'est pas des scientifiques, enfin, qu'on n'est pas des scientifiques comme les autres parce que on met à jour, en fait, notre position, en fait, en tant que personne sur le terrain. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, ça paraît juste naturel que tu viens avec ton propre bagage, tu vois. Donc moi, je viens avec mon bagage de femme de yéménite, maman d'enfant yéménite, tu vois, qui me pose toutes ces questions-là aussi. Et en fait, je trouve ça plutôt sain, tu vois. Si je disais, bah, je viens, j'ai aucun intérêt spécifique pour ce sujet-là, je suis concernée en rien et je viens, tu vois, et je viens travailler là-dessus, ça serait un peu bizarre, je trouve. Donc finalement, je trouve que c'est pas du tout un problème. Ça me paraît même logique, en fait, qu'on fasse les choses de cette manière-là. De la même façon qu'il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, des personnes qui sont issues d'immigration, donc qui sont nées en France, qui ont grandi en France et qui ont des parents bah, d'une origine, tu vois, d'un pays qu'ils connaissent mal et qui vont se dire, bah tiens, j'ai envie d'aller travailler sur ce pays-là, sur cette société-là, pour mieux comprendre, tu vois. Et en fait, c'est normal et c'est hyper sain de faire comme ça. Donc voilà, bah, moi, j'ai commencé à travailler donc avec ces femmes-là. Et donc, moi, je. Alors, voilà, pour expliquer un peu vraiment ce à quoi je m'intéresse, j'essaie de montrer, comme je te le disais, comment est-ce que on peut essayer de créer une génération yéménite loin du Yémen. Et quel est le rôle des femmes là-dedans? Et en quoi est-ce que c'est un véritable travail, en fait, que mènent les femmes, que mènent les mères, au quotidien, pour essayer de créer des enfants yéménites loin du Yémen, et qui sont à la fois des enfants yéménites qui pourront retourner au Yémen potentiellement si un jour la guerre s'arrête, mais qui sont aussi des enfants qui pourront s'adapter à la société djiboutienne dans laquelle il faudrait rester encore à Djibouti, et qui sont aussi voire des enfants qui pourraient peut-être migrer dans un pays tiers. Tu vois, c'est des parents qui essayent d'ouvrir au maximum le champ des possibles à leurs enfants parce qu'ils savent qu'on est dans une situation d'incertitude et qui en même temps ont vraiment la volonté aussi parce qu'ils sont très proches géographiquement du Yémen de garder ce lien avec le Yémen. Et ce travail-là, j'essaie de l'inscrire dans une réflexion plus globale sur le travail des femmes et la place des femmes au Yémen. Donc les personnes avec lesquelles je travaille, donc elles viennent d'un milieu social spécifique. Comme tout le monde, on vient tous d'un milieu social spécifique, mais c'est des personnes, on va dire, de la classe moyenne aujourd'hui, on pourrait appeler ça comme ça, originaires de la ville de Taiz, qui est une très grande ville yéménite, qui est située au sud-ouest, grosso modo, du pays, et qui sont originaires d'une région qui s'appelle la Rouguerria, qui est une région montagneuse et d'agriculteurs. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces familles, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des travaux un petit peu enfin, philosophiques et sociologiques, mais à dimension un peu historique de Elsa Dorlin ou de Silvia Federici, c'est toujours très important de remonter un petit peu dans l'histoire pour comprendre, même quand on travaille sur le moment présent, pour comprendre comment les choses qui sont se sont construites. En fait, donc c'était donc comme je l'ai dit, des familles qui travaillaient donc dans l'agriculture. Quand elles habitaient encore dans les villages, donc dans les années 70-80 encore, donc on va dire la génération des grands-mères, celles qu'on va appeler les grands-mères, tu vois. Elles ont grandi donc dans les villages et en fait, à leur époque à elles, les femmes passaient leur temps dehors. En fait, les femmes travaillaient. Les femmes travaillaient dans les champs, leurs propres champs. Elles travaillaient avec les animaux, tu vois. Elles avaient des chèvres, par exemple, des vaches, enfin, tu vois. Et donc, femmes et hommes, grosso modo, travaillaient tous les deux dans les champs. Donc, il y avait une forme de division sexuelle du travail parce qu'il y avait certaines tâches, pardon, qui étaient plus pour les hommes parce qu'elles étaient peut-être plus exigeantes physiquement ou des tâches qui exigeaient qu'on parte plus loin du village, tu vois. Mais c'était pas, il y avait pas une division très 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 claire, tu vois. C'était pas les femmes font juste le travail à la maison et puis les hommes font juste le travail à l'extérieur. Et puis on était aussi dans un système en maisonnée, c'est-à-dire qu'on était en famille élargie. Donc toutes les femmes de la famille s'occupaient de tous les enfants. Donc tu pouvais avoir 10 enfants en fait et travailler à côté parce que les enfants les plus grands s'occupaient des plus jeunes. Et puis il y avait les cousines, les tantes, les sœurs, tu vois. Et en fait on mettait en commun le travail. Tu vois, par exemple, une personne ou deux personnes allaient cuisiner pour toute la famille. Donc voilà, on était dans un système là donc, qui permettait aux femmes d'avoir aussi le temps de faire le travail agricole en fait et qu'on appelle un travail de subsistance en fait. Ils travaillaient pour se nourrir donc ils échangeaient, il y avait aussi une forme d'échange commercial mais en particulier en majorité on travaillait pour subvenir à ses besoins. Et en fait à partir des années 70 et 80 les hommes ont commencé à migrer de plus en plus. On va dire que le Yémen s'est ouvert par la migration des hommes aussi. Et il y a eu un mouvement, en fait, un mouvement un peu parallèle, à la fois de changement des idéaux et à la fois de changement de la situation matérielle, d'un point de vue économique et social. Donc, comme les hommes migraient, les femmes devaient faire encore plus de tâches qui étaient avant des tâches qui étaient allouées aux hommes, hein. Donc, on voit qu'il y a encore moins de division sexuelle des tâches. C'est vraiment les femmes qui s'occupaient de toutes les terres. Et peu à peu, en fait, quand les hommes revenaient, ils apportaient, pardon, des produits de l'étranger, notamment de l'Afrique de l'Est, de l'Arabie Saoudite, tu vois. Et en fait, petit à petit, il y a eu une entrée de produits étrangers, de produits manufacturés. Et donc, les gens, de plus en plus, ont voulu avoir de l'argent, en fait, pour pouvoir acheter des produits, tu vois. Des produits aussi électroménagers, etc. Donc on est sorti peu à peu de cette économie qui était un peu une économie de subsistance vers de plus en plus ce qu'on appelle une économie de marché, tu vois. Donc les gens commençaient à vendre leurs produits sur des marchés pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir échanger, pour pouvoir acheter des produits qui viennent de l'international. Et peu à peu, en fait, le Yémen s'est ouvert. Alors, on est aussi dans une période où à partir des années 60, à partir de 64, c'est la fin de l'imamat au nord du Yémen. Ensuite, on va avoir la création d'une république au nord Yémen. Et puis au sud Yémen, on va être dans une république socialiste jusqu'à la fin de l'URSS, en fait, et jusque dans les années 90, où le Yémen va être réunifié en une seule république.
Ouais.
Et en fait, ce contexte-là, ça va être aussi un contexte qui va permettre l'ouverture économique, l'ouverture sur le monde en fait du Yémen. Et ça va provoquer aussi un exode rural, donc les gens vont commencer à quitter les campagnes pour aller habiter en ville. Donc c'est un nouveau mode de vie, un mode de vie qu'on pourrait qualifié de moderne, tu vois. Modernité, pas dans le sens d'un idéal, dans le sens un type de mode de vie, tu vois. Un type de mode de vie qui est un mode de vie d'un système qui est lié à un système capitaliste, tu vois, avec de nouveaux idéaux. Et avec l'exode rural, donc les générations vont un peu se séparer. On va être de plus en plus vers un type de famille nucléaire, donc papa, maman, les enfants. Et en fait, quand on est dans un type de famille nucléaire, bah, comme je disais, les femmes avant, elles mettaient le travail en commun. Sauf que petit à petit, quand tu te retrouves avec des enfants, donc de moins en moins d'enfants, parce qu'on est en famille nucléaire, mais avec beaucoup d'enfants quand même, bah, tu peux pas travailler à côté. De toute façon, t'as plus ton champ. En ville, les femmes sortent de moins en moins parce que les idéaux changent aussi. Tu vois, ça commence à être mal vu pour les femmes de sortir. Et les femmes se retrouvent de plus en plus dans une situation de travail de femme au foyer, en fait. Tu vois, ce qu'on appelle housewifeization, ce qui est un phénomène qui a été étudié, en fait, au début du XXe siècle. Aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, ce qui n'est pas du tout un phénomène qui est propre au Yémen, ce qui est un phénomène propre à toutes les sociétés dans lesquelles il y a un exode rural, puis une création d'une femme de la famille nucléaire comme un idéal, tu vois. Et petit à petit, bah, les femmes yéménites vont se retrouver un peu cantonnées à ce rôle finalement de femmes au foyer qui font ce qu'on appelle bah, le travail domestique, et qui est un travail domestique qui n'est pas reconnu comme un travail. C'est-à-dire que quand les femmes elles font le ménage, quand les femmes elles s'occupent de leurs propres enfants, personne ne considère que c'est un travail qui devrait être rémunéré. C'est un travail qui n'a pas de valeur, tu vois. Ça pose pas mal de problèmes. C'est des choses qui ont été étudiées en France aussi. Donc en fait, ce nouveau modèle familial, tu vois, qui est du coup un nouveau modèle aussi de travail pour les femmes, c'est un modèle de travail qui est vachement valorisé socialement parce que une famille dans laquelle la femme ne travaille pas, c'est une famille dans laquelle l'homme travaille assez bien et fait assez d'argent pour que sa femme n'ait pas besoin de travailler, tu vois. Donc c'est un petit peu considéré comme un idéal, c'est en fait la création de ces classes moyennes, tu vois, de ces classes moyennes qui peuvent dans lesquelles on peut se permettre que la femme soit au foyer. C'est quelque chose qu'on connaît aussi très très bien en Europe, hein, cet idéal, tu vois. À l'époque de nos grands-mères, en Europe, c'était comme ça, tu vois. Et du coup, avec la création de ce nouvel idéal, bah voilà, le travail des femmes bah, change et devient un travail, comme je disais, qui est pas du tout considéré. Et en fait, là, on arrive donc à la génération suivante, donc la génération que j'appelle des mères, donc des femmes qui ont environ 30 ans, tu vois, bah elles sont nées en ville. Elles, contrairement à leurs mères, elles ont eu accès à l'éducation, elles ont eu accès à l'école, elles ont accès aussi à la contraception. Donc ça change plein de choses. Elles vont à l'université, etc. Sauf que bah, cet idéal en fait de la femme au foyer il persiste, mais c'est un idéal de la femme au foyer qui devient un idéal de la femme au foyer éduquée, qui peut permettre de créer des enfants, enfin de créer d'élever des enfants qui seront des enfants éduqués, tu vois, avec vraiment cette idée qu'en fait les femmes sont un peu les mères de la nation. Et dans la construction un peu du mythe national, bah, les mères ont le travail d'elles-mêmes s'éduquer pour pouvoir éduquer leurs enfants et pour pouvoir créer bah, de bons petits yéménites, tu vois. Et encore une fois, tout ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout propre au Yémen. Mais c'est juste intéressant parce qu'au Yémen, il a lieu plus tard, en fait, ce phénomène. C'est un phénomène qui
Ouais,
a lieu
c'est
au
assez récent,
début du
donc.
XXe siècle. Voilà. Et c'est pas, je précise, ça n'a pas eu lieu plus tard au Yémen parce que les Yéménites sont arriérés, hein. Ça a eu lieu plus tard au Yémen parce que pendant plus longtemps, le Yémen était un pays qui a été plus fermé sur lui-même du fait d'une volonté politique de l'imam du Nord-Yémen. Donc, encore une fois, c'est pas du tout lié au fait que ce soit des Arabes. Je le précise parce que bon, on a tellement l'habitude d'entendre des discours racistes et aussi des discours qui présupposeraient que le monde va vers un progrès et qu'en fait, plus on est moderne, plus on va, tu vois, plus on est avancé. En fait, l'histoire, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas des gens avant, il n'y a pas des gens après. Il y a des phénomènes sociaux qui sont contextuels. La modernité, c'est un phénomène social qui est contextuel et qui, au bout d'un moment, on va en sortir, en fait. Tu vois, c'est une période. Donc voilà. Le Yémen est entré dans la modernité, entre guillemets, en tant qu'idéal social, en tant que organisation de la société, plus tard que l'Europe, mais pour des raisons sociales, tu vois. Pas du tout pour des raisons de développement enfin de, je veux dire, de capacité des Yéménites à être modernes. Enfin bref. Et du coup, voilà, et on en arrive à cette génération de femmes éduquées, qui sont à l'université, etc. Sauf que bah, la Et là, peut-être qu'on aurait pu entrer dans un moment où les femmes seraient aussi entrées comme les hommes. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, les hommes étaient entrés en migrant dans le monde du travail salarié, auraient pu entrer dans le monde du travail salarié. Et en fait, bah, la guerre au Yémen fait que bah, non, les femmes n'entrent pas massivement. Encore une fois, il y a plein de femmes qui travaillent au Yémen, mais n'entrent pas massivement dans le monde du travail salarié, aussi parce que bah, guerre, insécurité, de plus en plus de familles qui migrent. Et en migration, les familles yéménites, notamment à Djibouti, ne peuvent pas travailler, ou très peu. Certaines, par exemple, qui sont enseignantes, peuvent travailler, mais grosso modo, c'est compliqué parce qu'elles ne parlent pas somali, elles ne parlent pas français, parce qu'elles n'ont pas les réseaux qui leur permettent de travailler, et aussi parce que bah, du coup, elles n'ont pas de famille pour les aider avec leurs enfants. C'est des familles qui pourraient avoir les moyens aussi de prendre quelqu'un à domicile, mais c'est pas très bien vu en fait de prendre quelqu'un qui serait extérieur à la famille, de prendre une domestique. Bref, le fait en fait de plus avoir la famille, de plus avoir autant d'entraide, de réseau d'entraide qu'au Yémen, bah, conduit les femmes à devoir rester à travailler à la maison. Alors je fais une petite précision, le travail salarié, encore une fois, c'est pas Il ne faut pas le voir comme un idéal de libération pour les femmes, hein, parce que le travail salarié, c'est quoi? Bah, c'est un travail dans le monde du travail capitaliste, qui est aussi un monde du travail, un monde de la domination. Hein, et en fait, c'est pas d'un point de vue militant, là je parle d'un point de vue militant plus qu'un point de vue sociologue, mais il ne faut pas voir ça comme un horizon de libération, en fait, l'entrée des femmes dans le travail salarié. En fait, l'horizon de libération, d'un point de vue anticapitaliste, il serait plus dans la sortie du travail salarié pour tout le monde, homme comme femme, tu vois. Et peut-être le retour vers une économie qui serait plus une économie de subsistance, comme ça existait avant, où on travaille pour soi, en fait, tu vois. On travaille pour soi, pour sa communauté, pour se nourrir, et on ne travaille pas pour le capital, quoi. Bon, c'est une petite parenthèse anticapitaliste. Mais voilà.
Ouais. Si je comprends bien, juste rapidement, hein, ce qui s'est passé du coup au Yémen, et peut-être on peut faire des parallèles aussi dans d'autres pays qui ont suivi un peu le même process, c'est que au départ, on a des sociétés, enfin, au départ, il n'y a pas vraiment de départ, mais je veux dire, originellement, ce qu'on retrouvait il y a quelques décennies, c'est un cercle familial où on va avoir un partage des tâches entre tant au niveau, on va dire,
Générationnel que
la
sexuel.
subsistance et voilà exactement, et l'organisation de la famille et l'implication dans la famille. Et petit à petit, avec le capitalisme, du coup, on va avoir, on va dire, une répartition des tâches qui est réorganisée où c'est l'homme qui va plus se focaliser sur le travail et la femme plus sur la maison.
L'homme plus vers le travail à l'extérieur et la femme sur la maison et la famille à l'intérieur.
Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a aussi des femmes qui s'éduquent à l'université, dans des écoles. Et maintenant, en fait, on peut avoir aussi des femmes qui veulent travailler, mais qui, du coup, ne gardent toujours cette responsabilité au sein de la famille que les hommes n'ont pas. Donc, c'est ça, en
Bah
fait,
oui,
c'est là où ça ne plus marchait, en fait.
Bah, le problème, c'est que ces femmes-là, en fait, elles aspirent à autre chose que le travail domestique. Parce que, comme je te l'ai dit, le travail domestique, mais au Yémen, comme partout dans le monde, il n'est pas considéré. Une femme qui travaille pour sa famille, qui cuisine, qui fait le ménage, qui garde ses enfants. En fait, une femme qui fait le ménage, la cuisine et qui garde des enfants dans une autre famille que la sienne, c'est un travail. Mais si c'est dans sa propre famille, c'est pas considéré comme un travail. C'est pas payé, c'est pas considéré socialement, tu vois. Donc, évidemment, bah, pour ces femmes-là, ça serait peut-être un horizon plus intéressant de travailler à l'extérieur, tu vois, ou au moins d'avoir un travail dans lequel elles peuvent être valorisées, parce que c'est hyper important de se sentir valorisée. Mais en même temps, il y a l'idéal de vouloir éduquer soi-même ses enfants en tant que Yéménite, pour pouvoir en faire des bons petits Yéménites, pour créer une génération d'enfants Yéménites à Djibouti qui pourront retourner au Yémen, tu vois, et qui auront la capacité de s'adapter en retournant au Yémen. Donc, c'est des enfants, par exemple, qui vont aller, pour beaucoup d'entre eux, donc soit qui vont aller dans une école en arabe à Djibouti, mais pour de plus en plus qui vont aller dans une école en français à Djibouti, avec toujours cette idée que la guerre dure de plus en plus longtemps, il faut que les enfants apprennent le français pour pouvoir potentiellement aller à l'université à Djibouti ou pouvoir créer un avenir à Djibouti, ou alors qu'ils vont apprendre l'anglais pour potentiellement pouvoir partir à l'international. Et en même temps, comme il y a vraiment cette volonté de garder le lien au Yémen, ils vont faire une double scolarité, ces enfants, en français à l'école le matin et l'après-midi en arabe, en allant à la mosquée, aussi grâce à leur mère, qui pour beaucoup d'enfants leur font faire en fait à distance le programme scolaire en fait arabe à distance. Donc tu vois, c'est vraiment quand je parle du travail des mères, c'est un travail qui est vraiment sur tous les plans, tu vois. Et ça, bah, évidemment, ça demande des ressources en termes éducatifs aux mères. C'est pour ça que je te parle de mères éduquées aussi, parce que si elles n'étaient pas éduquées, elles ne pourraient pas faire tout ce travail-là, tu vois. Et on arrive vraiment à un enjeu en fait finalement national, nationaliste, tu vois, que les mères doivent Les mères sont garantes de la transmission de cette identité yéménite, tu vois, et de la construction de cette génération d'enfants yéménites. Et ça veut dire quoi être yéménite? C'est aussi une question très très intéressante à creuser en temps de guerre au Yémen avec différentes identités yéménites, les yéménites du sud qui veulent faire sécession, les Houthis au nord. Qu'est-ce que ça veut dire être yéménite? Les gens de Taiz, ça a été les premiers républicains, tu vois. Donc pour eux, être yéménite, c'est quelque chose d'important, tu vois. Pouvoir potentiellement réussir à sauver ce pays qui finalement n'a jamais été unifié, enfin qui n'a jamais tenu très longtemps en fait en tant que Yémen unifié. Il y a tout cet enjeu aussi nationaliste qui est encore une fois un enjeu, qui est encore une fois un enjeu politique, tu vois. Et c'est hyper intéressant de voir comment tous ces enjeux à la fois de division sexuelle du travail à échelle des familles, de répartition des tâches, se croisent avec tous ces enjeux en fait de migration, de transmission de l'identité, de reconstruction même d'une identité yéménite en temps de guerre, tu vois.
Eh bien, je sais pas si tu veux, si tu penses qu'on doit rajouter quelque chose ou bien si on se rapproche de la conclusion.
Ouais, je peux peut-être juste rajouter un truc. Et quelque chose qui me paraît intéressant là-dedans, c'est aussi de montrer grâce à la sociologie, parce que quand on fait la sociologie, on étudie des mécanismes sociaux. Hein, on se détache un peu de toutes les explications culturalistes. La culture, la religion en sociologie, c'est des choses très importantes, mais aussi parce que c'est des prismes explicatifs. C'est-à-dire que quand il se passe un phénomène social ou économique, bah, les gens vont l'expliquer aussi avec leur représentation du monde, tu vois. Et on a souvent tendance, avec bah, nos idéaux voilà, culturalistes, post-coloniaux, donc hérités des représentations coloniales dont on a parlé tout à l'heure, à dire que voilà pourquoi les femmes au Yémen et puis dans le monde arabe, elles restent à la maison, elles sortent pas beaucoup, etc. De dire, bah voilà, c'est parce que leur mari les empêche de sortir, c'est parce que... Bon. En fait, l'enjeu, il est différent. En fait, comme je te disais, l'enjeu, c'est un enjeu matériel. Au début du XXe siècle, les femmes européennes et américaines, elles sortaient pas beaucoup de chez elles non plus, tu vois. Et elles s'occupaient de leurs enfants et elles restaient à la maison en tant que femmes au foyer. Donc, encore une fois, c'est vraiment un phénomène social qui n'est pas du tout à... Il faut pas du tout le culturaliser, tu vois. Alors, évidemment, tu peux trouver, bah, que ce soit dans la culture arabe ou que ce soit aussi dans les textes religieux, tu vois, tu peux trouver une façon de légitimer ou de mettre en avant cette division sexuelle du travail, tu vois, qui est un modèle comme un autre. Mais tu peux aussi trouver, en fait, tu peux aussi légitimer à partir des textes religieux un autre modèle de division sexuelle du travail, tu vois. Dans les textes coraniques, on retrouve beaucoup de figures de femmes qui travaillaient aussi à l'extérieur, de commerçantes, etc., tu vois. Donc, je trouve ça important, en fait, à la fois de ne pas dévaloriser le travail maternel, parce que le travail maternel et le fait de pouvoir s'occuper de sa famille en tant que femme, c'est quelque chose qui tient très à cœur aux femmes yéménites, comme je te disais, pour transmettre cette yéménité à leurs enfants dans un contexte d'incertitude, un contexte de guerre, un contexte qui est difficile. Et c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en avant dans toutes les sociétés, dans un monde capitaliste où de plus en plus on dévalorise en fait ce travail maternel, où on dévalorise même le travail parental en tant que tel, tu vois. On considère que le travail à la maison, le travail domestique, cuisiner, s'occuper de ses enfants, faire le ménage, on considère que c'est pas important et que si on est une personne qui a réussi sa vie, il faut travailler extérieur, tu vois. Et déléguer ses tâches à des femmes plus pauvres et souvent racisées. Hein. Parce que quand on fait appel, et ça c'est ce qu'on appelle aussi une division sexuelle du travail à échelle mondialisée, c'est-à-dire qu'on va faire du coup, lorsque les hommes et les femmes bah, travaillent tous les deux dans des entreprises avec un travail salarié dans le système capitaliste, bah, ils vont faire appel à des femmes pauvres issues de l'immigration pour venir faire les tâches du quotidien, les tâches de la subsistance dont ils peuvent plus se charger, tu vois. Donc l'idée, c'est pas du tout de dire qu'il faut dévaloriser ce travail-là, en fait, qu'il faut un travail okay, en fait, il faut qu'on revienne aussi à ce travail-là, qu'on priorise ce travail-là, homme comme femme, en fait, en considérant que ça, c'est ce qu'on appelle le travail de la reproduction. C'est le travail qui nous permet de continuer à vivre. En fait, c'est nous nourrir, nous laver et nous s'occuper de nos enfants, bah, qui sont notre futur, tu vois. Et c'est un travail qui, en fait, il faut qu'on valorise ce travail. Et il faut pas que ce soit seulement sur les femmes que pèse la double journée de travail, tu vois, cette double idéal à la fois de réussir sa vie à l'extérieur dans le monde capitaliste et à la fois de réussir sa vie au sein de la famille et de pouvoir mener ce travail de reproduction qui est absolument essentiel à la société. Il faut que hommes et femmes, en fait, essaient de se centrer un petit peu là-dessus, de considérer que ce travail-là, il est essentiel pour tout le monde. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout un travail féminin ou un travail masculin. En fait, c'est le travail de notre vie, en fait, de reproduire la vie, de nous faire perdurer en tant qu'être humain et aussi en tant que société. Et après, bon, bah, évidemment, dans un système capitaliste, si on a besoin de travailler à côté, il faut qu'on travaille à côté aussi, tu vois. Mais voilà, il me paraissait important de montrer toujours en fait les mécanismes qu'il y a derrière, en n'idéalisant pas le travail domestique et en n'idéalisant pas non plus le travail salarié dans un système capitaliste, tu vois. Et en comprenant bien tous les enjeux qu'il y a derrière, et qu'encore une fois, c'est des enjeux de reproduction d'un système de domination, sexe, classe, race, qui est hyper ancien, tu vois, mais qui a été créé et que donc on peut aussi essayer de combattre. Et c'est pour ça que la boucle est un peu bouclée, parce que finalement, je me rends compte qu'en fait, tout ça, c'est très, très en lien avec mes engagements militants. Bah voilà. Dans le cadre des migrations, mes engagements féministes, etc., tu vois.
Très bien. Écoute, je te remercie, Marjane. En tout cas, c'est intéressant d'entendre l'histoire d'un pays dans lequel la plupart d'entre nous n'avons aucune expérience ou aucune information, en tout cas aussi poussée, et de réfléchir à faire des parallèles avec nos propres expériences.
C'est ça, tu vois, c'est le Yémen, c'est loin, mais en fait, le Yémen, c'est très proche, tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi avec la sociologie, de se rendre compte que les phénomènes, en fait, on vit un peu tous la même chose, tu vois, peut-être à des époques différentes, à des moments différents, parce que l'histoire fait que tout n'est pas synchronisé, mais que, voilà, crée aussi des ponts.
Très bien. Marjan, donc on arrive sur les questions de la fin. Quelle est la
Oui.
compétence qui t'est le plus utile dans ton travail, dans la vie de tous les jours?
Alors, bon, je vais tricher, je vais en dire deux.
Ouais, tu peux. Ouais.
Moi, les compétences que je mobilise le plus au quotidien, la première, ça serait une. Ah, j'ai pas le mot exact, mais une compétence en fait humaine, capacité en fait à discuter avec les gens, tu vois. Comment dire ça? Oui, c'est ça. Une capacité à créer des liens en fait, à créer du lien avec les gens et à échanger avec eux. Quelque chose qui me paraît hyper important à la fois dans l'enseignement. Parce qu'enseigner, ce n'est pas juste parler, c'est aussi essayer de beaucoup écouter et de voir quels sont les besoins des étudiants. Et aussi, bah, au quotidien, bah, voilà, quand on fait de l'enquête de terrain, on écoute en fait. On écoute et on essaye nous-mêmes de nous adapter à la vie des gens pour devenir un peu. Enfin, comprendre en fait comment est-ce que dans leur corps, comment est-ce que dans leur tête, comment est-ce que dans leur vie, ils voient les choses, tu vois. Et ça demande beaucoup, une grande capacité de voilà, d'écoute et de créer du lien. Et quelque chose qui me paraît important, c'est que. Quand on interroge des gens, quand on fait des entretiens, en fait, on n'écoute pas seulement, on parle aussi. Moi, il me paraît absolument impossible d'aller interroger des femmes sur une expérience aussi intime que leur maternité, par exemple, sans moi parler de mon expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre sans donner, tu vois. Donc moi, quand je parle avec les gens, j'échange. Donc à la fois quand je parle, quand je fais mon cours à mes étudiants, j'essaie de les écouter, et à la fois quand je vais écouter les femmes yéménites me parler de leur expérience de la maternité, je parle. Et pour moi, ça va ensemble, en fait. Quand on veut parler, il faut écouter. Quand on veut écouter, il faut parler, tu vois. Pour moi, il faut créer du dialogue, voilà. Du dialogue et de la conversation. Ça, bon, je pense que c'est la première compétence qui m'est utile dans mon travail et que j'essaye vraiment de conserver, parce que c'est une compétence qui me paraît même être une compétence humaine hyper importante, en fait, pour tout dans la vie. Et la seconde, c'est l'écriture. Comme je l'ai dit, depuis longtemps, j'aime beaucoup écrire. Et je continue à beaucoup aimer écrire. Donc voilà.
Très bien. Très bien, très bien. Quelle est ta routine ou quelles sont tes routines? Pardon, non, ça c'est une question qui vient après. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail?
J'aime tout. Franchement, j'aime tout, à part le salaire et les conditions de travail. Mais sinon, enfin, j'aime tout, franchement. Comme je disais, voilà, je me considère très, très chanceuse. J'adore rencontrer des gens. J'adore discuter avec eux. J'adore rencontrer des gens avec lesquels je suis pas d'accord au début, tu vois. De comprendre qu'en fait, bah, finalement, ils ont raison à leur échelle à eux et pour leur raison à eux, tu vois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup rencontrer des gens pour toujours essayer de considérer autrement des choses, tu vois. En fait, ce que je trouve génial avec la sociologie, c'est pouvoir aussi sortir de son propre point de vue pour pouvoir, l'espace de quelques minutes, avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, tu vois. Pouvoir adopter le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, et il faut absolument qu'on arrive à tous faire ça à notre échelle, quoi. C'est très, très important. Alors, je le fais sûrement pas assez, et moi aussi, il faut que je me force à le faire davantage, mais ça, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir avoir cette capacité-là à aller explorer d'autres vies que la nôtre, tu vois. Ouais.
Génial. Quelles sont tes routines préférées, tes routines qui t'aident à progresser ou qui t'aident à garder l'énergie au quotidien?
Bah écoute, en fait, ma route, la force de ma routine, c'est aussi ça. C'est aussi son inconvénient principal. C'est comme je te le disais, moi, je suis beaucoup avec mes enfants. Donc, pour l'instant, mon fils n'allait pas à la crèche en plus. Ma fille, je vais la chercher le midi à l'école pour qu'elle mange à la maison, voilà, pour qu'elle mange un repas. Voilà, bon, évidemment, à la cantine, les repas ne sont pas halal. En plus, nous, on est végétariens. J'essaye de donner des aliments bons pour leur santé à mes enfants. Tu vois, donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, comment te dire que mes journées sont bien remplies par mes enfants déjà? Et du coup, je n'ai pas énormément de temps pour bosser. Mais en fait, le temps que j'ai pour bosser, j'ai l'impression que je suis vachement plus efficace. C'est-à-dire qu'avant, quand je n'avais pas mes enfants, j'avais le sentiment de beaucoup procrastiner, de pas. Tu vois, quand tu as le temps, tu vois, et du coup, tu fais rien. Et là, en fait, le fait d'avoir seulement des petites fenêtres d'opportunités pour pouvoir bosser, tu vois, bah, quand tu as une heure et tu sais que tu n'as qu'une heure, et bah, tu bosses vachement bien en une heure. Donc,
Je
en
comprends.
fait, à la fois parfois, je t'avoue que c'est difficile et j'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Et en fait, ça m'aide beaucoup. Et ça, en fait, le fait d'avoir mes enfants et de couper le travail, ça m'aide beaucoup à prendre du recul sur mon travail et à relativiser. Parce que quand on fait un travail intellectuel, un travail d'écriture, par exemple, déjà, c'est très fatigant. Et c'est pas du tout un travail comme un travail de bureau, c'est-à-dire où tu peux dire je fais 9h-17h. En fait, ça marche pas comme ça, l'écriture. Il y a des moments où ça vient, et il y a des moments où ça vient pas. Il y a un côté un peu magique dans l'écriture, tu vois. Il y a des moments où ça vient pas, en fait. Ça vient pas peut-être parce que ton cerveau a besoin de lui-même retravailler sur des choses, tu vois. Et du coup, bah, parfois, je bosse, et puis ça vient pas. Et puis, je vais chercher mes enfants, je me promène avec eux, et puis en fait, je reviens. Et là, ça marche, tu vois. C'est un travail, à mon avis, le travail intellectuel que tu peux pas vraiment soumettre à des horaires de bureau, tu vois. Et
Faut
ça
laisser
mène
le
aussi
temps.
c'est ça, il faut laisser le temps. Et puis, je trouve que c'est pas mal aussi de pouvoir prendre du recul. C'est-à-dire que parfois, ça marche pas. Et puis, je me dis, en fait, Morgane, c'est pas très grave. Parfois, bah voilà, comme je te disais, la thèse, c'est pas facile parce qu'on a aussi des conditions de travail qui sont pas faciles. Et je vois des collègues à moi qui sont vraiment en difficulté, en fait, d'un point de vue psychologique. Et en fait, moi, j'essaie de relativiser. Je me dis, écoute, Morgane, c'est un travail. C'est un travail passion, mais c'est un travail. Et t'as ta famille, t'as ta vie à côté. Et tu vois, ça m'aide aussi, j'ai l'impression, à prendre du recul là-dessus. Donc voilà, cette routine travail plus enfant, c'est autant une force que parfois quelque chose de fatigant, mais voilà.
Très bien. J'ai déjà noté les deux livres que tu as recommandés plus tôt. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, une autre recommandation?
Ouais, peut-être une recommandation un peu moins académique. Bon, ça, c'est quand même des bouquins de chercheuses. Bon, bien que Sylvia Federici, c'est un peu costaud, mais en fait, bon. Moi, j'inviterais tout le monde à essayer au moins de se coller à Elsa Dorlin. C'est un petit bouquin et c'est pas trop trop compliqué. Si c'est des thématiques qui nous intéressent, en fait, ces thématiques de construction, co-construction de la classe, la race, le sexe, tout. Mais un livre, en fait, je vais me faire de la pub en plus. J'ai fait il y a pas longtemps sur. J'ai fait il y a pas longtemps sur le site internet Conditions, je pense que tu connais, qui est un média en ligne. Une petite recension en fait des deux derniers ouvrages de Fatima Wassak, qui est politologue et qui est militante franco-marocaine. Et en fait, elle a écrit deux bouquins ces dernières années. Le premier qui s'appelle. C'est là que je vais avoir un trou de mémoire. Attends, je suis désolée, je triche, tu couperas au
Pas
montage.
de souci.
Du coup, au montage. Comment il s'appelle? La force des mères, le pouvoir des mères, le. La puissance des mères, ok. Donc le premier bouquin s'appelle La puissance des mères, et le second bouquin pardon, s'appelle Pour une écologie pirate. Et en fait, dans le premier bouquin, elle va s'intéresser aux mères comme acteurs politiques, en fait, notamment auprès des populations marginalisées, en fait, du fait de leur classe sociale et du fait qu'elles soient issues de l'immigration, et le rôle que peuvent jouer, en fait, les mères. Et qu'ont à jouer les mères dans ce contexte. Donc, tu vois évidemment que ça résonne aussi avec mes problématiques de recherche. Et le deuxième bouquin, Pour une écologie pirate, c'est dans la continuité, en fait. Et elle essaie de montrer en quoi les problématiques environnementales, en fait, c'est des problématiques qui sont liées, en fait, au rapport de domination sexe-classe-race dont je parlais avant. Et qu'en fait, Déjà, les premières victimes de la catastrophe environnementale qui est en train d'arriver, c'est les gens qui sont dominés dans la société. Et qu'en fait, on a tout fait pour qu'ils ne soient pas en capacité d'agir, tu vois, pour les empêcher. Parce que quand tu habites, ce qu'elle explique, mais quand tu habites dans une cité HLM, que tu n'es pas propriétaire de là où tu habites, qu'on fait tout pour que tu ne sois pas le bienvenu dans les rues. Tu vois, je pense notamment aux jeunes qui ne sont pas les bienvenus en fait en bas de leur bâtiment. On fait en sorte qu'ils dégagent, tu vois. La police, l'État fait en sorte de faire sentir à tous ces gens-là qu'ils ne sont pas les bienvenus ici et qu'ils ne sont pas chez eux. Et en fait, quand tu n'es pas chez toi sur ton propre territoire, tu ne peux pas agir finalement en fait pour essayer de sauver ce territoire, tu vois. Et elle remet tout ça en perspective, c'est passionnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces deux bouquins, mais je le dis dans ma recension, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir et puis surtout lire les bouquins, c'est qu'aussi elle donne des clés pour agir, tu vois. C'est pas seulement un constat, c'est aussi, comme c'est une militante, Fatima Ouessac, elle incite aussi les gens à l'action, elle met beaucoup de choses en place. Et je pense que ça peut, en fait, ça peut que nous donner envie de nous mobiliser, de militer, et d'avoir de l'espoir, parce que, comme je le disais, et ça se voit aussi dans mon propre parcours. Je pense que voilà, on est des chercheurs, on fait des constats, mais il faut aussi pouvoir après se mobiliser et militer pour essayer de faire changer ce qu'on a envie de changer, tu vois.
Très
Donc
bien.
voilà, ma petite
Bah écoute,
recommandation.
je mettrai ça en description, Inch'Allah. Et enfin, dernière question, Morgane. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te contacter, te poser une question par rapport à dont on vient de parler. Est-ce que c'est possible et si oui, comment?
Oui, c'est possible. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux. J'ai pas vraiment de réseaux sociaux, mais je peux te donner mon adresse email. Enfin, j'ai des pages. Si on tape mon nom sur Internet, on trouve des choses. J'ai des pages institutionnelles, etc. Mais je peux donner mon adresse email professionnelle pour qu'on me contacte pour parler autant de mes sujets de recherche professionnelle, mais aussi de militantisme et d'autres sujets. Il n'y a pas de
Génial.
problème. Ça sera avec plaisir.
Super. Bah écoute, Morgane, je te remercie beaucoup. C'est un sujet vraiment pour le moins atypique. On n'en avait pas parlé, mais finalement, quand on fait les connexions et quand on fait le lien avec nos propres vies, finalement, on se rend compte que c'est pas si différent de, voilà, comme on le disait plus tôt, quand on fait les parallèles. J'espère qu'en tout cas, son travail sera repris à l'avenir et que tu pourras développer ça encore plus pour faire les parallèles avec notre situation. Même si je sais pas si c'est ton objectif ou pas, mais en tout cas,
Si,
c'est.
évidemment, évidemment, c'est mon objectif, Inch'Allah.
Inch'Allah. Et je demande à Dieu qu'il te facilite dans la fin de ta thèse,
Amin.
dans l'écriture de ton mémoire, qui est très difficile en général, c'est le plus difficile, et pour la suite de tes projets, pour toi et ta famille.
Bah, écoute, je te remercie, Abdelrahman. C'était passionnant d'échanger avec toi. Et voilà, donc au plaisir d'échanger avec d'autres auditrices ou auditeurs.
À bientôt, Inch'Allah, Morgane.
À
Salam alaikum.
bientôt. Alaykoum salam.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.